C'est bon, Julien?
C'est bon?
Les amis, normalement, on est de retour. Dites-moi dans le chat si le son, l'image est revenu. C'est c'est ouais. F5 à fond sur les PC où on relance sur téléphone, sur iPad. Tiens, viens, j'étais un peu sorti du champ. Voilà. Très intéressant ce qui vient de se passer. Ça n'est pas du tout un complot. Ça n'est pas du tout des gens très énervés par le travail de vérification de l'info de nos amis qui nous ont coupé la fibre. Non. Alors, l'expérience du vieux streamer que je suis maintenant quand même à parler, c'est-à-dire que, on va pas balancer, mais ouais. Notre jeune ami qui est venu couper des extraits pour mettre sur les réseaux sociaux, à un moment s'est déplacé, et j'ai quand même constaté que le crash du stream a coïncidé avec le déplacement. Et donc on a compris un truc, et quelque part c'est top parce que ça va me servir pour la suite. La box est connectée à un interrupteur qui est l'interrupteur de la lumière. Il n'y a pas de lumière dans la grande pièce principale, donc le jeune homme s'est déplacé dans le noir, et évidemment qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu allumer, donc il appuie sur l'interrupteur. Je découvre que la box, bonne idée d'ailleurs, bravo Samuel, est connectée à l'interrupteur. C'est et on a craché ça. Et on a craché. Et donc vous m'avez rendu service parce que je le ferai plus.
Ça, tu sais qu'il faut pas le faire.
C'est mais génial. On aurait préféré que ce soit un complot. Ça aurait été
encore une
meilleure histoire à raconter.
Voilà la prise sur l'interrupteur sur la box. Ouais. Bon, alors je découvre cet appartement puisque j'ai les clés depuis quelques jours. Je ne savais pas effectivement que cette prise électrique était reliée à l'alimentation de la box. C'est fait. Ouais. Donc on a fact-checké. L'install électrique.
Exactement.
C'est ça. Qui n'est pas extraordinaire. Pour l'instant, c'est pas idéal.
C'est top.
Non, mais du coup, les gens ont des doutes sur l'info, quoi.
Ouais. Non, c'est une vraie info. Alors, on était presque 5000 tout à l'heure. On est un peu moins de 2000 maintenant, forcément, parce que y a des gens qui sont partis. Vous allez revenir, j'en suis sûr.
Ça peut être un coup des reptiliens aussi. C'est une théorie qui est abordée par quelqu'un. Là, effectivement,
on va enquêter là-dessus.
Peut-être un moitié homme, moitié lézard qui a éteint la boîte.
Mais moi, c'est un des aspects de Twitch que j'aime bien. C'est des petits trucs comme ça, un petit peu. Voilà. Personne pendant 20 heures va te dire écoutez, on a perdu l'antenne pendant 5 minutes parce qu'il y a Roger.
Qui a fait n'importe quoi avec la prise.
Qui a fait n'importe quoi avec la prise, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas craché. Mais maintenant, je sais et c'est plutôt rassurant. Je suis en train de vous dire. Alors évidemment c'est pas du fact-checking, mais Julien vous expliquait comment travaille une rédaction où il y a beaucoup de, voilà, c'est cadré, le travail d'un journaliste il est regardé par les confrères, là on travaille en équipe, et après il est supervisé par un rédacteur en chef, et puis après il y a une hiérarchie avec le directeur de l'information, etc. Et donc tous ces gens en fait finalement quelque part se fact-checkent les uns les autres. Moi ce que je vais vous dire le matin par exemple, c'est que quand Zora, ma présentatrice et amie d'ailleurs qui présente le JT avec moi, comme je suis un maniaque comme tous les journalistes le sont, à chaque fois qu'elle émet une info, dans ma tête, je la vérifie, je la corrige. Tu vois, je vois un chiffre qui arrive, je me dis, oh, il est gros ce chiffre, il est bizarre. Et puis je dis, t'es sûr? Et puis je suis en train de vérifier. 99% du temps, l'info, elle est juste. C'est moi qui m'inquiète pour rien. Et puis de temps en temps, se rendre compte que, ouais, sur un chiffre ou sur une déclaration, c'est pas tout à fait ça. Et paf, on corrige tout de suite, quoi. Donc, activité humaine, activité faillible, mais l'important, c'est le doute et la vérification. Et on le fait non-stop. Et puis, Luc, t'avais vu un message dans le chat au moment où on a été coupé.
Oui, c'était un message qui disait...
Le fact-checker, est-ce que c'est un super journaliste?
Et oui, et non, pas du tout. Le fact-checker, c'est
non, on est nul complètement.
mais le fact-checker, c'est un journaliste...
C'est
un journaliste comme un autre, puisque de toute façon, un journaliste de base, s'il fait bien son travail, il doit vérifier ses infos et pas dire... Donc voilà, il ne faut pas croire que les journalistes vont dire n'importe quoi et les fact-checkers vont vérifier derrière. Non, tous les journalistes vérifient... normalement les infos qui sortent, juste les fact-checkers, bon c'est vrai que c'est un nom qui peut faire un peu barbare, un peu enfin voilà, un peu étrange, mais eux ils sont juste là en gros plus pour regarder les informations qui circulent et les vérifier, quoi. Mais on n'est pas des super journalistes.
Il y a quelqu'un dans le chat, c'est Décadrem, qui demandait si toutes les rédacs ont un service de fact-checking. Est-ce que toutes les grandes rédacs, des grands quotidiens, des grands médias, des grandes télés, des grandes radios, ont un service de fact-checking?
Presque, je pense. Mais...
je pense que la plupart des grandes rédactions, maintenant, elles ont ça. Ouais. Ouais, elles ont ça.
Mais, tellement c'est essentiel, quoi.
Et je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale entre ce qu'on fait et ce que font la plupart des journalistes, c'est que quand tu es journaliste, tu fais ton reportage sur les vaccins. Tu as besoin d'informations, tu contactes les gens, des experts, tu fais ton reportage et tu vérifies les informations que toi, tu vas donner dans ton reportage. Nous, ce qui est très particulier dans notre travail, c'est qu'on va regarder ce qui se dit déjà et on va se saisir de choses qui nous semblent des fois pas vraies pour aller le vérifier. Ça, c'est une démarche que les journalistes ne faisaient pas tellement avant. Avant, on faisait notre travail de vérification pour nos reportages. Là, c'est un peu différent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a bien compris que l'univers de l'information, il ne se réduisait pas aux 20h de France 2 et à ce que produisent les journalistes. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, mais un peu partout, et il fallait aussi en prendre compte. Voilà.
Tu vois, c'est intéressant, je vois un petit sourire, il y a Bretzel qui dit qu'en fait, vous faites du SAV de l'information, voilà, ce qui est plutôt sympa.
Là, c'est ça.
On reprend.
On va renommer la chaîne comme ça.
Le doc, non, parce que ça va faire penser à Omar et Fred.
C'est vrai,
tu
sais,
tu viens plus aux soirées. Tu viens plus aux soirées. On va reprendre le doc. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a trouvé l'interrupteur qui est un abox, donc on va plus y toucher. Let's go.
L'heure est très grave. Le voilà, le brevet.
Donc, je rappelle, là, on est arrivé sur le moment de la crise sanitaire. Et Julien et Luc nous disaient, bon, là, c'est là où, en France, notamment, on a constaté l'explosion de la désinformation. Et
pour relancer juste la séquence, là, on parlait d'une grosse intox qui a circulé au début de la pandémie et du coup qui avait été, à la base, dite par donc, ce monsieur qu'on voit. C'était sur Facebook.
Let's go.
Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui.
Cet homme, ancien gilet jaune, explique que le virus du Covid-19 a été créé par des scientifiques de l'Institut Pasteur et diffusé volontairement.
On ne vous parle pas d'un virus qui se balade dans la nature. C'est bien marqué, je vous le dis, vous irez voir les papiers, c'est marqué les inventeurs. Les inventeurs.
Ce brevet existe bien. Et il est effectivement l'œuvre de l'Institut Pasteur. Mais cet internaute l'interprète de manière erronée. Le terme « inventeur » désigne les personnes qui ont déposé ce brevet. Et il ne concerne pas l'invention du Covid-19, mais l'identification d'un ancien coronavirus. L'homme à l'origine de l'intox sera condamné à une amende de 5000 euros avec sursis pour diffamation à l'égard de l'Institut Pasteur en septembre 2020.
Effectivement, j'ai fait l'amalgame sur le mot « inventeur ».
Malgré sa condamnation et les démentis, cette fausse information va continuer de se diffuser.
Fabriqué en France par l'Institut Pasteur.
Jusqu'à être reprise dans un documentaire qui deviendra une référence pour les réseaux de désinformation.
Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur.
C'est génial. Non,
ce qui est intéressant, je trouve, avec cette première intox, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup vu au moment de la pandémie, c'est on cherchait de l'info et du coup... Les gens vont se mettre un peu à chercher sur Internet des réponses pour...
Parce que les gens s'inquiètent, en fait.
Parce que les gens s'inquiètent. Ce qui est, à première vue, une démarche plutôt saine. Hein. On a des questions, on va essayer de chercher soi-même. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas forcément les codes pour lire ce genre de documents, et nous non plus, hein, on n'a pas les codes de base pour lire des brevets.
Là, par exemple, monsieur, il voit inventeur.
Voilà, il
donc
voit
il prend le mot premier du terme et il dit « Ok, les gars, ils ont inventé des virus. » Alors qu'en fait, c'est découvreur.
Et en plus, même pas de ce coronavirus-là, c'est un coronavirus d'avant. Ouais.
Mais voilà, et ça, c'est ça, du coup, ça, c'est cette fausse info, elle avait beaucoup circulé. Et voilà, c'était assez intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup vu à cette période, le côté on prend des documents qui sont vrais, puisque c'est un vrai brevet qui sort, c'est juste qu'on l'interprète de la mauvaise manière, on en fait une mauvaise interprétation, et du coup, ça donne cette
interprétation. Et la personne a beau être condamnée et puis à un moment reconnaître son erreur, après, ça part sur...
C'est repris derrière par d'autres...
Et ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant et important dans notre travail, c'est qu'on ne se considère pas comme des experts de tout. C'est quand tu travailles sur un brevet de coronavirus, faut pas croire qu'en tant qu'internaute lambda, nous compris, on est capable de lire ce document qui est complexe et d'en tirer des conclusions valides.
Comment tu fais alors ?
C'est-à-dire que c'est là qu'il faut passer par des gens dont c'est le métier.
Des experts, des scientifiques...
Et ça marche pour tous les sujets. Si je travaille sur le nucléaire, c'est pas moi qui vais évaluer si un document de sûreté nucléaire est valide ou il y a des erreurs dedans. J'ai pas les compétences pour ça. Nous, notre boulot, c'est d'aller trouver la bonne personne ou les bonnes personnes en général, parce qu'il nous faut plusieurs avis pour aller commenter ça. Et c'est bien le problème avec des gens comme ce gilet jaune là, qui en fait lui se dit, je vais être capable moi de voir ce document et de repérer des erreurs dedans. Ah, inventeur, découvreur. Bon, et ça donne ce genre d'erreur.
Et là typiquement, c'était un document de l'Institut Pasteur. La première chose qu'ont fait les journalistes à cette époque, c'est de demander à l'Institut Pasteur ce que c'était que ce document. Et eux-mêmes, l'Institut Pasteur, directement, a expliqué ce que c'était que ce document. C'était pas du tout eux qui avaient inventé. Et puis aussi, on va interroger d'autres scientifiques qui sont pas forcément de l'Institut Pasteur, parce qu'on peut se dire, on n'interroge pas que ceux qui sont directement concernés et d'autres pour avoir un autre avis qui nous disent finalement la même chose.
Alors ça, moi, c'est une question que j'allais te poser et je la vois sous la plume de Squall 777. comment tu trouves la bonne personne si tu connais rien? Comment tu trouves le bon expert? Comment tu sais que c'est lui qui va t'apporter la bonne réponse? Bon, là, pour l'Institut Pasteur, c'est assez clair, par exemple. Tu vas à la source, quoi, de l'info.
Oui, en fait, déjà, on va essayer de trouver le domaine. Par exemple, là, voilà, on parle... Bon, là, c'était l'Institut Pasteur, donc on va chercher quelqu'un de l'Institut Pasteur. Mais si on parle de virus, on va peut-être essayer de trouver un virologue, vu qu'on va se dire que c'est
Plusieurs.
Peut-être plusieurs, mais on a un avis... Enfin, comme ça, on est dans le bon domaine, quoi. Après aussi, ce qu'on va regarder, c'est si certains virologues ont déjà parlé de ce sujet, par exemple, parce que souvent certains ont déjà sorti des études sur l'info en question qu'on cherche. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va essayer de trouver des gens qui sont
une démarche journalistique, en fait.
Mais en fait, c'est très important et c'est une très bonne question, parce que c'est vraiment important de comprendre que les experts, c'est très précis. C'est-à-dire que quand on cherche sur un vaccin, on va s'adresser à un virologue. La personne qui est médecin généraliste ou, je sais pas, cardiologue, ne sera pas la bonne personne pour parler d'un virus et d'un coronavirus. Donc il y a vraiment, même dans la médecine, plein de disciplines. Et si on va parler à la mauvaise personne, elle peut faire des erreurs parce que c'est pas son métier spécifique. Et ça marche pour tout. Si vous êtes sur un problème juridique et vous voulez savoir est-ce que un arrêt du Conseil d'État peut avoir un impact sur tel territoire. Bon, là, c'est très précis. Vous pouvez pas vous dire « je parle à un avocat » où je parle à un juriste, ça veut rien dire. Il faut trouver le juriste spécialiste de droit public qui a déjà écrit sur ce sujet-là et qui va être capable de répondre. Donc vraiment, chercher le bon expert, c'est tout un travail. Et c'est aussi un des problèmes qu'on a sur Internet, c'est que les gens se disent « bon, il est médecin, donc il doit savoir de quoi il parle ». Mais c'est plus compliqué que ça.
Et on a vu dans la crise sanitaire des médecins parfois qui
dérapaient aussi.
Qui se trompaient. On poursuit.
C'est une épidémie. Sorti à l'automne 2020, Hold Up enchaîne pendant près de 3 heures les contre-vérités sur le Covid-19.
Oh, excuse-moi. Promis, je vais m'abonner à YouTube. Je vais m'abonner à YouTube.
Mais c'est pas moi qui fais de l'argent.
Des chiffres partiels qui sont utilisés, ou des arguments qui sont utilisés, mais seulement le côté qui intéresse le réalisateur. Mais le problème, c'est que quand on regarde, évidemment, on s'en rend pas compte, parce que c'est très bien fait.
Ainsi, le documentaire nous explique qu'un virus ne peut pas avoir de deuxième vague, ou que des camps d'internement vont être créés au Canada pour les malades. Autant de fausses informations distillées dans un discours anxiogène.
Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus.
Et des soupçons de manipulation par des élites mondiales comme Bill Gates. Un discours qui intrigue et séduit. Hold Up est vu plusieurs millions de fois sur Internet.
Pour des gens qui se posent des questions, ce qui est bien normal, le fait de regarder ça avec tous ces arguments qui ne veulent pas forcément dire quelque chose de manière isolée, mais quand on écoute tout ça, on finit par être convaincu.
Hold Up va également être...
Je vais juste une petite question dans le chat plus haut. Ouais. Quelqu'un qui demandait si on rémunérait les experts. Alors je pense qu'il veut dire est-ce qu'on paye les gens qu'on interviewe. Non, on ne paye pas les gens qu'on interviewe. Voilà, c'est... Peut-être que certains se posent la question. Et juste pour revenir sur Hold Up, parce qu'au tout début du stream, on parlait du 11 septembre. Et c'est intéressant comme Hold Up, finalement, c'est un peu la même mécanique que les docus conspi qu'on pouvait avoir sur le 11 septembre. C'est qu'en fait, on met plein d'infos. Dans Hold Up, ceux qui ont vu Hold Up, on voit ça dure 3 heures. Et il y a plein d'infos. On est bombardé de plein de choses. Et finalement, au bout du compte, si on se laisse porter par le truc, on va se dire, ah ouais. C'est vrai qu'il y a un truc, un peu chelou. C'est ce que dit Lisa, et c'est ce qu'on retrouvait dans les docs sur le 11 septembre qui était conspirationniste, où en fait on avait plein d'infos mises bout à bout, des infos qui parfois n'ont pas forcément un rapport avec le truc, mais quand on les lit tous, on se dit ah ouais, peut-être qu'il y a un truc qui est un peu chelou, et c'est assez intéressant de voir la construction de ces docs.
Il y avait une question sur je crois, si tu remontes Samuel, sur le Netflix qui a fait un documentaire il n'y a pas très longtemps, c'est ça? Non, tu étais là, sur le vol MH370.
On a fait un sujet dessus.
C'est intéressant parce que là, on parle de documentaires qui sont clairement complotistes. Mmh.
On va rappeler ce que c'est le MH370.
Ouais. MH370,
c'est un vol.
C'est ça, c'est ce vol de la Malaysia Airlines qui est parti de Malaisie, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'est crashé et qu'on n'a jamais retrouvé. Et du coup, il y a plein de... Enfin, je te laisse finir.
Le doc, il est
sur Netflix. En gros, Netflix a sorti il y a quelques semaines un documentaire en 3 épisodes, je crois, sur le MH370. Et c'est aussi intéressant de voir, je ne sais pas si certains l'ont vu dans le chat, mais que ça fonctionne un peu de la même manière. On a plein d'infos qui sont données. Les gens qui parlent, on a des gens qui sont présentés comme experts alors qu'ils sont pas experts, quoi. Et qui développent des théories qui, concrètement, c'est assez n'importe quoi, en fait. Mais quand on les met bout à bout, comme ça, on se dit, ah ouais...
Il y a King Julien qui dit « full conspice de Netflix ».
Ouais, bah, clairement.
C'est pas un peu dommage qu'une grande plateforme qui nous a plutôt habitués par la qualité de ses fictions diffuse un truc qui manifestement pose problème. Moi, j'étais pas au courant de cette polémique.
Si, et les experts, on va dire, aéronautiques qui ont étudié le truc étaient assez vénères contre ça, parce que clairement... Netflix, tout le monde va regarder ce truc Netflix, ouais, et ça fait beaucoup de mal finalement à cette histoire.
Mais c'est pas la première fois que Netflix se fait épingler pour ce genre de choses. Je sais pas si dans la communauté il y a des gens qui l'ont vu. Vraisemblablement, il y a un documentaire historique qui en fait reprend ce vieux mythe d'une sorte le mythe de l'Atlantide, donc c'est-à-dire une sorte de société ultra développée qui existait il y a des milliers d'années et qui serait à la base de toutes les sociétés modernes.
Il y a un doc là-dessus.
Et alors, c'est un doc qui reprend ce vieux mythe-là et va trouver des preuves à droite à gauche. Alors, c'est jamais donné comme une sorte de documentaire ultra réaliste. Il flirte avec la fiction, mais au final, on peut en sortir avec l'idée que finalement, le mythe de l'Atlantide, peut-être qu'il est vrai, alors que c'est une histoire qui se raconte depuis très longtemps. Alors, et on sait bien que ça n'a rien de factuel.
Alors, nous, on en parle et ça nous passionne parce que, évidemment, c'est le cœur de notre métier, mais ça touche aussi le quotidien des gens. Tu vois, il y a Loulou Filou qui écrit « Étudiante en médecine, j'ai vu ma belle-mère croire à ce doc hold-up ». Et peu importe ce que je lui expliquais, elle s'était fait une idée, c'était trop tard, triste. Pour la crise sanitaire, on a vu des familles comme ça qui sont divisées. Hein.
C'est qui? C'est Loulou qui dit ça?
Ouais, c'est Loulou.
Ouais. Mais alors, Loulou Filou 22, malheureusement, il y a aussi des gens qui étaient dans le domaine médical qui ont cru fermement à des balivernes sur le Covid. Hein. Alors, il y a eu des infirmières, il y a eu des médecins qui ont un rôle déterminant. Et ils venaient du monde médical et ils expliquaient aux gens, on vous ment sur le virus. Et c'est eux qui ont fait vraiment du mal. Parce qu'à partir du moment où il y a des gens qui sont dans le domaine médical, même si ce n'est pas des experts de ce domaine-là, c'est important de le comprendre, c'est des médecins généralistes, des cardiologues, etc. Il y a des gens qui ont déraillé et qui ont emporté tout le monde là-dedans. Et après, ça donne, que votre tante, votre oncle, ouais, ou votre cousin qu'on n'a pas vu depuis longtemps, lui se retrouve à nous sortir ce genre d'hérésie.
Il y a trop de commentaires intéressants, ça nous fait prendre du temps, mais on est là pour ça, c'est sur Twitch. Il y a Yann qui écrit, j'ai un doctorat en immunologie. Ce qui est difficile dans le cadre de ces faux documentaires comme Hold Up, c'est qu'ils emploient des chercheurs d'expérience, certes, mais dont les positions les ont posées au ban de leur domaine. Par exemple, Montagnier, spécialiste du VIH,
exactement,
qui croit en l'homéopathie,
exactement,
mais qui utilise leur aura qu'ils ont acquis donc sur d'autres champs de connaissances pour mobiliser un biais cognitif dit de halo. C'est vachement intéressant. Ce que tu disais, en fait. On va pas voir un médecin généraliste si on parle de virus. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure.
Et alors, le professeur Montagnier, pour expliquer un peu, c'est un des découvreurs du
VIH.
Du VIH. Donc, c'est quelqu'un qui avait une réputation, un prix Nobel de médecine. Donc, c'est quelqu'un qui a une référence. Et moi, j'ai toujours cette question qui est, mais pour qui tu te prends pour contredire
Montagnier.
Le professeur Montagnier, mais moi je ne contredis personne. Moi ce que je fais, c'est que je dis, le professeur Montagnier dit ça, et ensuite je vais voir des virologues, des experts, et pas un mais 10, et je leur dis, est-ce que ce qu'il dit tient la route? Et ils me disent tous le contraire. Donc après, c'est qu'il y a des gens qui, même si ça a été des grands scientifiques, ensuite finissent par dérailler.
Il y a quelqu'un qui suit très bien le stream et qui dit, du coup c'est l'inventeur du VIH. Excellent. Allez, on reprend le doc. C'est nos limites, hein. Moi je garde jusqu'à... Moi j'enchaîne. Je suis censé aller à 3h à la rédac.
On a jusqu'à 3h.
Ouais, parce que nous, on peut dormir, mais lui, il ne pourra pas dormir après. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas.
C'est parti.
Être relayé sur les réseaux sociaux, et notamment par une partie de la classe politique. David Chavalarias est directeur de recherche au CNRS. Il étudie la désinformation en ligne.
Ici, on a le paysage politique français tel qu'il était en novembre 2020, où chaque point représente un compte Twitter. Et les petits filaments ici représentent des liens de retweet. Et on voit que là où on a relayé intensivement Hold Up, c'est vraiment la sphère autour des comptes de l'extrême droite alternative, on va dire, donc Asselineau, Philippot et Dupont-Aignan.
Ces figures politiques vont relayer et alimenter cette désinformation, en profitant également des hésitations du gouvernement.
Sur la question des masques, alors là, nous atteignons, si vous voulez, l'apothéose. Il y a eu ces revirements de doctrine absolument incroyables.
Les masques, symbole d'un exécutif qui navigue à vue durant cette pandémie.
Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile.
Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos.
Au début de la crise, le gouvernement affirme avec certitude que les masques sont inutiles, malgré le manque d'études scientifiques.
Julien ?
Non, c'est juste que je vois des commentaires sur la data, et je suis ultra d'accord avec Cédricus et Jean-Jacques.
C'est quoi la data visualisation alors ?
C'est ce qu'on a vu du coup...
C'est le lien là.
David Chavalarias.
Ouais.
Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, on essayait de comprendre qui étaient ces communautés qui avaient commencé par parler du virus, qui maintenant parlaient de la guerre en Ukraine, et comment c'était qui ces communautés. Et ce qu'a fait Chavalarias, c'est qu'il a analysé grâce à la data, en fait, l'évolution de ces gens-là. Et on s'est aperçu, mais on a eu les données pour le dire, on le sentait, mais on a les données, pour dire que c'était des gens qui, en fait, avaient muté de thématiques pour se projeter vers d'autres thématiques.
Alors, quelle thématique
ils avaient commencé par exemple à défendre pour certains s'attaquer au virus, au Covid, en disant qu'on leur mentait sur le Covid, sur les vaccins, etc. Et cette même communauté avait dérivé maintenant sur le climato-scepticisme, par exemple, donc dire que finalement il n'y a pas de réchauffement climatique d'origine humaine, ou alors dire que la Russie finalement n'est pas l'agresseur dans cette guerre. Et on sentait qu'il y avait une communauté commune, mais là il a réussi à le prouver avec de la data, donc merci à lui, que c'était les mêmes personnes souvent, même si c'est plus compliqué que ça, c'est pas que les mêmes personnes, mais qui cherchaient un nouveau sujet sur lequel se projeter, pour faire passer finalement des idées très contestataires, très anti- social ou anti-État, etc. Donc c'était vraiment les mêmes communautés qui se projetaient comme sur différentes thématiques.
Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce que c'est des esprits qui ont une appétence pour les théories du complot et du coup ils cherchent la dernière ? Ou est-ce que, comme Karim l'écrit, c'est une communauté d'opportunistes, c'est-à-dire des gens qui ont un intérêt politique ou économique, par exemple ? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ?
Il y a plusieurs choses pour l'expliquer. Alors ça dépend des gens. On peut se dire que pour certains c'est de l'opportunisme, le côté, on l'aborde un petit peu après dans le doc, mais le côté on va réussir à se créer une communauté finalement en surfant sur de la désinformation, sur du doute.
Comme ça a du succès.
Voilà.
Comme ça fait du clic.
Ça fait du clic. Donc là on peut se dire qu'il y a de l'opportunisme. Après il y a on peut trouver aussi d'autres explications. On a vu qu'il y a un côté anti-système qu'on retrouve dans ces différentes communautés.
La pensée dominante sur un sujet, la pensée du système, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Et puis sur le côté, on est contre les politiques, on est contre les scientifiques, on est contre les journalistes. Donc finalement, on va se retrouver un petit peu sur tous ces sujets. Ça fait partie aussi des explications.
Après, il y a des gens qui font leur carrière politique là-dessus. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Il y a des gens qui sont des politiciens de second rang et pour tirer la couverture à eux et acquérir une notoriété,
on a vu leur visage.
Ils foncent, je ne vais pas les citer parce qu'on les cite régulièrement.
On les a vus.
Ils foncent dans ces créneaux-là. Puis il y a des gens qui font de l'argent avec, on va en parler juste après.
J'aime bien parce qu'il y a l'humour aussi, même sur les sujets plus sérieux. Il y a Monique Claire qui écrit « J'aurais dû faire ça sérieux, monter une communauté et me mettre au chômage. »
Parce qu'il y en a qui font beaucoup d'argent.
On peut parler de Casas Novas. La cagnotte de Casas Novas récente, c'était combien, Luc ? Combien il a gagné ?
Ouais, il a gagné 100 000 euros. Alors Casas Novas,
c'est qui Casas Novas ?
On va en parler un peu.
On va le voir juste après.
C'est le naturo.
Casas Novas, c'est quelqu'un qui se présente comme naturopathe, qui dit qu'on peut soigner notamment le cancer
avec des légumes,
avec des jus de fruits crus, des légumes crus, avec du jeûne aussi.
Ouais.
Et donc, en fait, tout ça, on peut se dire que ça peut être rigolo, limite, mais sauf que derrière, il y a un côté un peu plus sombre, c'est que il est mis en examen pour exercice illégal de la médecine. C'est celui qui est le plus signalé auprès de la Miviludes. La Miviludes, c'est l'organisme qui gère les
phénomènes sectaires.
Phénomènes sectaires, exactement. Donc c'est quelqu'un qui est quand même pas si rigolo que ça, ce personnage. Et lui, il a créé une cagnotte il n'y a pas longtemps pour... alors on ne sait pas trop pourquoi c'était sa cagnotte, mais soit pour l'aider sur ses frais d'avocat ou pour l'aider un petit peu dans ses activités. Il a récolté 100 000 euros en 3 jours. Donc 100 000 euros en 3 jours, c'est quand même pas...
Tu peux en faire des subs.
je stream jour et nuit là.
Donc voilà, comme quoi on peut récolter beaucoup d'argent avec ça.
L'humour, tout. Moi, je ne me lasse pas de l'humour sur Twitch. Un naturopathe, c'est comme un psychopathe, mais avec la nature.
D'Idriss Aberkane.
Et juste, pardon, petit mot pour terminer sur Netflix tout à l'heure, parce que je voyais qu'il y avait quelqu'un qui posait la question qui avait vu le documentaire, mais qui ne savait pas sur les fakes, etc. Nous, on a fait un sujet dessus, et sinon, il y a Xavier Tittleman qui est un spécialiste c'est un ancien pilote, c'est aussi un spécialiste de ces questions aéronautiques et tout, qui a fait une très longue vidéo pour débunker tout le. tout le doc de Netflix. Donc voilà, si certains veulent
regarder. Comment ça s'appelle, redis?
Xavier Titelman, c'est okay. le nom de sa chaîne.
Ok, voilà. Lui, il a fait une vidéo pour débunk le doc de Netflix.
Ouais, c'est ça, une vidéo qui doit durer une heure, je pense, c'est avec d'autres, d'autres aussi experts du.
Xavier, trop fort, il y en a qui connaissent dans le chat.
Il y en a qui connaissent. Il y a même, j'ai vu des. Il y a des pointus, hein. Il y a des gens pointus dans le chat, moi, c'est, j'aime bien.
Ah bah, c'est une belle commu, hein. C'est parti. D'ailleurs, tiens, tu vois, par curiosité, est-ce qu'on a perdu un petit peu de gens avec le crash de la box via l'interrupteur? Est-ce que les gens sont revenus? Les gens reviennent doucement. Les gens reviennent doucement. Ok, top, top, top. Et on reprend le doc.
Scientifique sur le sujet. Ce qu'il ne dit pas clairement, en revanche, c'est qu'à ce moment-là, la France n'a tout simplement pas assez de masques.
Il y avait des masques et puis il n'y en a plus. Puis on ne sait pas très très bien où on en est, des stocks. Ça va nourrir incontestablement cette idée qu'il y a quelque chose de pas clair, qu'on cache la vérité aux Françaises et aux Français et que l'exécutif, en plus, ne maîtrise pas la situation.
Le gouvernement veut donner des réponses claires et définitives sur le virus, à un moment où la science ne peut pas encore les apporter.
La connaissance scientifique, c'est quelque chose qui se construit sur la base d'informations robustes, validées, et ça prend du temps. Et on ne peut pas demander à un scientifique de se projeter avec un jeu de données, en quelque sorte, qui est trop faible. Il ne peut pas le faire. Ou s'il le fait, il va se tromper. Mais il va se tromper de bonne foi, je dirais.
Et de nombreux scientifiques, au début de la pandémie, se sont trompés.
Je pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France.
Bon, c'est un virus de plus, c'est, comme on le dit souvent, c'est une forme de grippe.
Les médias ont aussi poussé, parfois, à la circulation d'informations sans base scientifique.
Les experts venaient et on leur demandait des réponses définitives. Et les experts ne savaient pas. Et comme on insistait et qu'on leur demandait absolument des réponses claires et précises, bah, ils essayaient de nous donner des réponses claires et précises. Et je pense que c'est la principale erreur qu'on a faite en tant que journaliste. Il faut accepter qu'on ne sait pas tout et on ne savait pas tout à ce moment-là sur le virus.
Un gouvernement qui tâtonne, des scientifiques qui doutent, un sentiment de cacophonie dans les médias. Ces différents facteurs vont favoriser l'émergence de discours alternatifs.
Petite pause, parce que là, on parle des gens qui font presque profession de la désinformation pour les intérêts économiques ou politiques, et parfois c'est nourri par des erreurs aussi, ben ici des politiques par exemple. L'histoire des masques, hein. Un jour le masque ne sert à rien, on a entendu la porte-parole du gouvernement, le lendemain tout le monde doit le mettre. Et puis Julien, ce que tu disais à l'instant sur des journalistes qui essayent absolument d'avoir des réponses claires et affirmées de scientifiques, qui eux sont dans le doute et qui à force de se faire presser par le journaliste finissent par dire quelque chose alors qu'en fait ils n'ont pas les connaissances à l'instant T, quoi.
Non, mais je pense que c'est important de le dire que nous, on a beaucoup appris, les journalistes, pendant cette pandémie, et je pense que tout le monde a appris beaucoup. C'est-à-dire que nous, on a appris aussi que quand tu as quelqu'un qui n'est pas forcément un spécialiste en plateau, lui demander des réponses ultra précises, on va le pousser à faire des erreurs. Et je reviens juste sur un truc, c'est qu'on a eu Agnès Buzyn en plateau il y a quelques jours, qui a regardé ce documentaire avec nous. Agnès Buzyn, c'était donc la ministre de la Santé, juste avant la pandémie. Elle est partie pour essayer de gagner la mairie de Paris, ça n'avait pas réussi.
Elle est partie mi-février.
Juste avant, voilà, ou quand ça commençait à peine. Voilà. Et elle n'était pas contente du tout de la façon dont, par exemple, on présentait l'affaire des masques. Parce qu'elle, elle disait, à ce moment-là, on ne savait pas que ça se transmettait de cette façon-là, on ne pouvait pas le penser, parce que les scientifiques au niveau européen disaient que c'était plus dangereux, finalement, d'avoir un masque et de peut-être s'infecter en touchant son masque et ensuite en se touchant les yeux, par exemple. C'était ce qu'on pensait à ce moment-là. Donc on a dit, on n'a pas besoin de masque. Et ce que j'ai essayé de lui dire, mais ça a été un dialogue de sourds, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est qu'en gros, elle disait, nous, on n'avait pas d'autres informations à ce moment-là. On a dit, l'OMS dit, les masques ne servent à rien. On a dit, les masques ne servent à rien. Et je leur ai dit, mais au même moment en Asie, tous portaient des masques alors qu'ils étaient bien plus habitués que nous avec ce genre de maladie respiratoire. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire au public, pour l'instant, on a très peu d'informations sur ce virus, on ne sait pas comment il fonctionne, et pour l'instant, on estime qu'effectivement, le masque n'est pas nécessaire, mais c'est quelque chose qui peut changer. Parce que là, ça a été une façon de dire aux gens, on sait, et on sait, ceux qui disent qu'il faut des masques, ils font n'importe quoi. Et
quand je l'ai dit, c'est très, très catégorique, ce qu'on a entendu.
C'était ultra catégorique, et c'était là-dessus que nous, on n'était pas d'accord. Et quand je lui dis, mais d'ailleurs, à Taïwan, il le savait déjà. Elle me dit, oh, vous nous ressortez toujours l'exemple de Taïwan, mais Taïwan, on ne regardait pas. Je dis, mais Taïwan, ils connaissaient mieux que nous ces virus, ils viennent de là-bas. Et eux, ils étaient préparés. Est-ce qu'à un moment, on ne devait pas sortir un peu de notre superbe d'Européens qui avions les meilleurs scientifiques du monde et dire, bah, peut-être que regarder un peu ce qu'ils font à Taïwan, ouais, c'est peut-être intéressant. Et elle n'en démordait pas. Elle m'a dit, non, en Europe, on avait tous la même politique et c'est complotiste. Elle m'a dit qu'on était complotistes, en gros, de dire le contraire.
Alors, est-ce que le politique, le gouvernant, il est pas à un moment il est pressé de questions des citoyens sur un sujet qui inquiète, qui est celui du Covid, de la crise sanitaire. Et du coup, à un moment, il veut, comme le scientifique qu'on presse de questions, donner une réponse, même si elle n'est pas bonne. Donc en gros, le problème, c'est ce serait compliqué de dire « je ne sais pas », ce serait compliqué de dire « on n'est pas sûr ».
C'est que là, ce que disait en tout cas Agnès Buzyn, c'est que eux, en gros, ils suivaient juste les conseils du. Donc c'était il y avait le conseil scientifique,
ouais, on rappelle.
Qui s'était formé à cette époque. Et en gros, ce que disaient les politiques, c'est on suit les avis des scientifiques et donc du conseil scientifique. Et si le conseil scientifique nous dit les masques, c'est pas utile en population générale, on va dire les masques, c'est pas utile en population générale. Et c'est ce qu'ils ont fait à l'époque, mais sans utiliser de conditionnel, ou en tout cas, c'est vrai que quand on regarde les. Alors c'est vrai, on peut se dire, c'est toujours plus simple de regarder après coup.
Ouais, c'est ce que dit Antoine, c'est toujours facile de juger dans le rétroviseur.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai que quand on regarde à l'époque les interventions de certains membres du gouvernement, c'était très, c'était très sûr, on est très sûr de ce qu'on affirme.
Et ça, c'est une forme de faute. C'est une forme de faute. Utiliser le ton de la certitude, quand finalement, quand on gratte un peu, on se rend compte que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux.
Non, puis quand elle disait que les scientifiques n'avaient pas la réponse, nos scientifiques, effectivement, le conseil scientifique à l'époque, n'avaient pas la réponse à ça. Mais encore une fois, en Asie, ils avaient déjà des idées. Et nous, on a fait un sujet télé, on pourrait le retrouver, vrai ou fake, sur le port du masque. À un moment, le gouvernement continuait à dire ça ne sert à rien, parce que l'OMS disait ça. Okay. Nous, on avait commencé à regarder ce qui se passait dans d'autres pays. On avait dit, alors sauf si c'est tous des abrutis ailleurs, ils commencent à se dire que c'est peut-être un virus qui peut être aéroporté.
Non, pardon, parce Luc. C'était ça, en fait. C'est pour ça qu'au début, ils ne recommandaient pas le masque, parce qu'ils pensaient que c'était un virus qui se propageait au toucher, quoi, juste avec les mains, etc. C'est pour ça qu'ils disaient, si vous mettez un masque, vous risquez de vous contaminer plus, puisque vous allez le trifouiller avec vos doigts et tout, et du coup, vous allez vous mettre plus de virus. Alors que finalement, les scientifiques et tout ont découvert que c'est un virus qui se transmettait par les airs, et donc, le masque, c'est forcément utile.
On reprend.
Et anxiogène sur la pandémie. Des arguments dopés par l'arrivée des vaccins contre le Covid à la toute fin de l'année 2020. Pour Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur des hôpitaux de Marseille, une protéine contenue dans ces vaccins serait un danger pour notre fertilité.
Si vous développez des anticorps contre ce petit morceau-là, peut-être vous risquez d'être infertile, d'être stérile.
Avec cette crypto, on a peut-être trouvé le nouveau bit.
Je vais prendre un abonnement YouTube.
Il y a plein, dis donc.
Et hop, ils sont des sous,
Tracteur de cette désinformation, Richard Boutry, un ancien journaliste qui publie chaque jour une vidéo sur les réseaux sociaux. Pour lui, l'ouverture de la vaccination aux enfants représente un danger.
Ils seront piqués comme des pauvres bestiaux qu'on envoie à l'abattoir.
Des affirmations fausses qui ne reposent sur aucune base scientifique, mais qui deviennent virales en ligne, boostées par les algorithmes des réseaux sociaux.
Ces algorithmes cherchent à optimiser ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire le nombre de clics, le nombre de partages, le nombre de likes, etc. Et on sait par ailleurs que les contenus qui provoquent le plus d'engagement, en moyenne, sont les contenus de type anxiogène, négatif, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Ça, c'est un premier effet. Et le deuxième effet, c'est la recommandation sociale. On va vous dire, vous devriez vous connecter avec telle personne.
En résumé, ces algorithmes vont rassembler des gens qui pensent la même chose et nous renforcer dans nos croyances.
Vous n'avez pas le temps de vérifier la véracité de toutes ces choses. Et donc votre cerveau, il va déclarer vrai les idées dont vous avez envie qu'elles soient vraies. Et donc il va promouvoir les informations qui vont dans le sens de ce qu'il attend. Ça, c'est un biais tout à fait normal.
Mais cette désinformation va franchir la frontière des réseaux sociaux pour s'implanter dans nos rues. En juin 2021...
Luc, c'est juste pour conclure cette
séquence-là.
Cette séquence sur le côté, ce que disait David Chavalaria, c'est le côté, on a tendance à partager les infos anxiogènes, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans
Parce qu'elles font plus de clics, c'est ça parce
Non, mais parce que c'est quelque chose qui touche à nos émotions, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la désinformation, c'est le côté, on se laisse prendre un petit peu par nos émotions. C'est ce qu'on a vu... au moment de la pandémie. C'est pour ça que ces fausses infos assez anxiogènes ont percé, si on veut, quoi. Finalement, pendant la pandémie, on a beaucoup d'inconnus. On a des gens qui nous apportent des réponses où finalement, c'est un complot. Là, il y a des trucs louches et tout. Si on se pose des questions, on peut se dire, c'est vrai que C'est pas mal. C'est vrai que j'ai un peu peur quand même de cette pandémie et tout. Ce qui dit, il y a peut-être quelque chose de vrai. On va partager cette info puisque ça joue sur nos
C'est ce que certains appellent le biais de négativité, c'est ça?
Oui, c'est ce que dit David Chavarrias.
Mais c'est marrant parce que là, il y avait une question que je trouve intéressante qui disait, mais pourquoi avoir interviewé Étienne Klein, qui est physicien,
sur
une question de biais cognitif?
Très bonne question.
Une très bonne question, et je pense qu'on va simplement... C'est que, oui, il est physicien à la base, mais en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la vulgarisation de la démarche scientifique. Et ce qu'on voulait expliquer là, c'est qu'en fait, cette démarche scientifique, comment elle fonctionne avec les différents tests, etc., et quel biais elle pouvait avoir, et comment les gens des fois pensent avoir une démarche complètement rationnelle et scientifique, et en fait se trompent. Et ça, Étienne Klein, pour le coup, il a beaucoup travaillé là-dessus. Mais il y a des questions pointues, moi j'aime bien répondre.
En tout cas, dans le chat, il y a beaucoup de fans de son travail. Hein.
Ouais,
Étienne Klein. Vraiment, j'ai dit Étienne Klein, je pensais que c'était pour moi, j'étais super.
Oui, je pensais que c'était pour toi aussi, mais non.
Pas du tout. C'est parti.
Le gouvernement met en place le pass sanitaire. Une mesure qui déclenche des mouvements de contestation sur le territoire. Dans ces manifestations, on trouve des questionnements légitimes sur les mesures gouvernementales.
Je n'ai pas envie d'être contrôlé pour aller boire un café, j'ai pas envie que mon fils soit contrôlé quand il va jouer au rugby. Ça me gêne.
Mais au milieu de ces réflexions, se glissent des discours anti-vaccins parfois fantasques. Nous en faisons l'expérience à Pau.
Ça permet aussi d'en éliminer une partie.
Pour vous, avec les vaccins, on élimine aussi une partie de la population?
Oui, bien sûr. On veut que nous, on devienne les petits esclaves des élites. C'est ça qu'ils veulent, en fait.
Avec la vaccination?
Oui. Et le pass sanitaire aussi.
Les figures de la désinformation tressent petit à petit des liens qui vont au-delà des discussions sur les réseaux. Exemple, au début de l'été 2021...
On vient tourner, on est France Télévisions, voilà...
Allez-y, la porte est ouverte.
D'accord, super, merci beaucoup.
Merci. Dans cet événement organisé à Avignon.
Donc voilà, moi je suis médecin réanimateur, je parle d'émancipation démocratique, donc je vais être assez loin de mon sujet, mais du coup très en sécurité par rapport à l'ordre des médecins.
Il y a le médecin Louis Fouché qui lui, sous couvert d'une formation scientifique, désinforme complètement sur le Covid. Il y a Richard Boutry qui fait la minute de Ricardo.
Distanciation sociale, gestes barrières sont des concepts inventés liés au satanisme. Richard Boutry nous l'affirme, la pandémie de Covid et ses conséquences font pour lui partie d'un plan diabolique.
Ce sont des apprentis sorciers.
Julien ?
Non, je vois beaucoup de questions sur, mais si j'ai pas rêvé, c'est Francis Lalanne.
Oui.
Et alors ça me fait rire parce que, en fait...
On l'a vu.
Ce qui est intéressant avec Francis Lalanne, c'est que c'est typique, en gros, je trouve, de quelqu'un qui a eu une notoriété par ses chansons, c'était un chanteur à la base, qui ensuite est un peu sorti des... projecteur pendant un moment et qui fait partie des gens qui en fait ils retournent sous les projecteurs grâce à ça, c'est-à-dire en prenant des positions complètement anti-système, des positions en gros qui vont à l'encontre de tout ce que le monde raconte, du coup il crée une communauté derrière lui qui dit oui Francis vas-y, et donc Francis Lalanne se met à expliquer des choses sur le vaccin, et vous n'avez pas rêvé, moi je l'ai interviewé directement, je sais pas si on le voit dans le documentaire, je crois mais moi je lui ai parlé directement justement pour expliquer, mais Francis Lalanne, vous m'expliquez ça sur le vaccin. D'où vous sortez vos informations, quoi. Et il m'expliquait, mais vraiment, texto, il m'a dit, mais quand en gros tout le monde disait que la Terre était plate, il y avait Galilée qui disait que la Terre était ronde, tournée autour de... c'était un bloubi-boulga dans sa tête, il avait l'impression d'être Galilée, quoi.
Mais et du coup, c'est est-ce que c'est donc c'est un artiste qui est peut-être plus au top de sa carrière et il le fait un peu par cynisme pour exister médiatiquement, ou c'est un convaincu. Ouais, c'est ça.
Mais après, il y a une capacité des gens. Après, je suis pas spécialiste de ça. Je vous donne mon avis là pour le coup. C'est que je pense que les gens ont une capacité à s'auto-convaincre. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche en fait de la lumière. On a besoin que les gens nous écoutent, les gens nous admirent, les gens nous adulent. Et donc, quand on commence à dire ce genre de choses, on voit qu'il y a de l'attraction, que les gens commencent à partager, dire « oui, Francis », et on retrouve quelque part l'aura qu'on avait avant pour la musique. Et ça pousse à dire de plus en plus n'importe quoi en étant persuadé. Et au bout d'un moment, ce qu'on répète devient vérité. Je dis quelque chose parce que je l'ai dit, ça devient vrai. Et c'est assez fascinant à voir.
Captain Dwayne va jusqu'à dire « ce sont aussi des victimes ». Un mot de Richard Boutry, là. Alors, il a un profil intéressant aussi. Ancien journaliste
de France Télé.
De France Télévisions. Alors bon, moi c'est quelque chose, quand j'ai vu commencer à parler, ça m'a un peu surpris parce que je pense bien connaître l'histoire des médias français. Alors j'avais aucun souvenir de ce monsieur, mais c'est quelque chose qui met en avant effectivement pour se donner une crédibilité. Ancien journaliste de France Télévisions, je ne sais pas ce qu'il a fait à France Télévisions, mais...
Il a présenté le Soir 3.
Ça ne m'a pas marqué.
Très peu de temps.
Très peu de temps,
quelques mois, je crois. Voilà, donc, mais en revanche, il se sert d'une notoriété ou en tout cas d'une expertise passée en tant que journaliste pour dire, puisque je suis journaliste, j'ai la rigueur nécessaire et donc mon message, il a de la valeur, c'est ça ?
Bah, d'ailleurs, j'ai une discussion avec lui sur les fondamentaux du journalisme, ouais, qui est complètement lunaire parce qu'il dit être journaliste, mais en gros, il me dit oui, c'est un complot sataniste ce vaccin. C'est un complot sataniste. Je dis, mais comment vous savez ? Ah ben déjà, il y a eu des effets secondaires très graves chez des centaines de milliers de personnes et personne n'en parle. Ouais. Je dis, mais comment vous le savez ? Ben, moi, j'ai reçu des messages, il me dit, sur ma communauté.
Oui, sur Facebook notamment.
Sur Facebook, ouais, ils me disent, c'est très dangereux, ma tante est morte, etc. Je dis, ok, c'est intéressant, c'est normal d'avoir des retours. Mais maintenant, comment vous vérifiez les retours ? Il dit, non, je n'ai pas vérifié, je les ai eus. Il dit, les gens qui sont dans ma communauté disent la vérité.
Je les crois.
Que c'est des gens de ma communauté qui est une communauté qui est vraie et qui est pure. Et j'étais là, genre, mais ça, c'est l'opposé du travail des journalistes. Mmh. Même si c'est quelqu'un qui est proche de moi, je vais vérifier ce qu'il me raconte. Un témoignage, on ne le balance pas tel quel. Mmh. Donc il avait oublié tout ça, ou jamais su, je ne sais pas.
Mais il se présente comme journaliste, et c'est quelque chose qui met beaucoup en avant, et il dit faire un travail journalistique.
Donc, même question, cynisme pour chercher un succès, peut-être gagner de l'argent, ou conviction ? À votre avis ?
Bah, encore une fois, c'est très dur à dire. Hein. Après, il peut y avoir une part de cynisme au début, et finalement, on s'auto-convainc du truc. C'est franchement très dur à dire pour certains. Pour Richard Boutry, je ne sais pas, franchement.
Bon, après, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Je pense que dans le cas de cette personne que j'ai interviewée directement, il y a aussi un profil psychologique particulier. Je pense que là, on est sur quelqu'un qui a une forme de folie, c'est-à-dire qui s'auto-persuade de choses. Il parle de satanisme tout le temps, il voit des complots, mais pas des petits complots. Lui, il est vraiment sur des choses très, très barrées.
Là, si on regarde ce soir, Richard Coucou, et il pense qu'on participe à un complot, quoi.
Probablement qu'on est manipulé. Ces gens-là disent tout le temps que moi, je reçois de l'argent de la CIA, de je sais pas quoi. C'est basé sur... Il n'y a rien de vaguement tangible là-dedans. C'est des choses qu'ils se racontent tout seuls. Et dans leur communauté, ils se renforcent sur ça. C'est assez étonnant.
En tout cas, je sais pas ce que tu fais de ton argent, parce que tout à l'heure...
Ils ne payent pas très bien la CIA. Hein.
Tu aurais pu arriver en Bentley, ou enfin, venu en scooter et trempé.
Voilà, j'étais trempé.
Je peux confirmer. Donc, je ne sais pas où tu mets l'argent de la CIA, mais tu ne le mets pas dans les moyens de transport. Ça, c'est sûr.
Juste tout à l'heure, on parlait de des infos business. Ce qui est intéressant aussi sur Richard Boutry, c'est qu'au début, ses vidéos, il les faisait gratuitement. Enfin, en tout cas, on pouvait y accéder gratuitement sur son site.
Ouais.
Et aujourd'hui, il faut payer. Il faut payer 10 euros par mois si on veut voir ses vidéos sur son site. Donc, c'est aussi intéressant de voir comme cette personne a fait fructifier, on va dire, ça. Son activité.
Comment ça, il faudrait un peu mieux s'habiller? Il y a Yann qui dit si t'avais de l'argent de la CIA, faudrait mieux. Ça va, j'ai un peu tout à fait correct, il n'y a pas de trou dedans.
On passe par un plan serré, en vrai, là, pour Twitch, on est plutôt. Ça va,
ça
quoi.
Ça va, je veux dire, je suis pas non plus en pyjama, quoi.
Moi, j'ai un t-shirt de ce matin, voilà, ça va, quoi, quand même, ça va. En vrai, là, c'est reparti. J'adore parce qu'on est bavard, tu vois. Tu t'attendais à ça ou pas? Tu vois, on a lancé le stream à 20h.
Non, c'est vrai.
On a vu la moitié du doc à peine. Et il est 21h43.
Non, c'est vrai.
Bienvenue sur Twitch.
Aujourd'hui, qui se prennent pour des créateurs et qui aujourd'hui veulent changer le monde, changer à travers leur propre vision du monde, qui veulent changer complètement les mentalités et détruire une partie de l'humanité. Ça me paraît très clair.
À Avignon, ce jour-là, ces discours de désinformation sur le Covid se mêlent à des causeries sur les médecines douces. Un cocktail surprenant, mais qui se développe durant la pandémie. Ainsi, le médecin Louis Fouché apparaît parfois en ligne discutant avec Thierry Casasnovas. Récemment mis en examen pour exercice illégal de la médecine, ce naturopathe prône une alimentation à base de fruits et légumes crus.
Le jus du matin et puis je
Il est aussi la personnalité la plus signalée auprès de la Miviludes, l'organisme chargé de suivre les dérives sectaires. Sur la pandémie, l'homme aux presque 600 000 abonnés sur YouTube a un avis bien tranché.
Mais je savais pas que ça avait joué tant.
2-3 accords quoi. C'est...
Pardon, pourquoi il y a autant de pubs?
On va se faire vanner là. Il faut savoir que c'est sur ma chaîne YouTube et que je touche rien sur les pubs. Hein. Juste.
Non, c'est oui. C'est juste qu'il faut que je prenne un adblock ou que je m'abonne à YouTube. Je comptais le faire aujourd'hui et puis j'ai pas eu le temps. La prochaine fois, promis.
Sur la santé, moi ça serait réglé rapido. Bain froid et jeûne pour tout le monde. Un petit peu de jus de carotte et vas-y que je t'envoie.
Autre figure de ces traitements.
Ça c'était contre le Covid ça. Hein.
C'était pour le Covid. Ouais.
Non, c'est juste donc jus de carotte. Et bain froid,
et vas-y.
Et let's go.
Et vas-y, je te pousse.
Et vas-y, c'est bon, quoi.
Et juste, je voyais des commentaires là-dessus. L'idée, c'est pas de dire que tous les naturopathes sont des Thierry Casasnovas. Hein. C'est juste pour montrer vraiment l'exemple de cet homme qui, voilà, raconte un peu n'importe quoi sur la santé et ça devient dangereux.
d'alternatif, Tal Chaleur, un docteur adepte de l'urinothérapie.
L'urine, en fait, est le premier médicament qui existe sur Terre pour soigner les êtres humains.
Ses interventions cumulent des centaines de milliers de vues et le sujet du Covid ou des vaccins n'est jamais loin.
Le but du vaccin n'a jamais été de les protéger, mais c'est de les empoisonner, parce que les vaccins sont des poisons calculés.
Cette désinformation est amplifiée.
C'est qui le monsieur là qu'on voit là, Tal Chaleur
sur la... Oui.
Alors Tal Chaleur, lui, c'est un ancien médecin. Enfin, de base, il est médecin.
Ouais.
Et derrière, c'est un peu comme Thierry Casasnovas. Il vient sur une santé un peu plus.
Il est sur le pipi, manifestement. Hein,
c'est abusé de justifier les kinks.
Non, parce qu'il y a deux crimes là. C'est le propos là sur bon, en gros le pipi soigne tout, si j'ai bien compris. Et les chemises aussi.
C'est moins dangereux pour la santé, mais ouais, pour les yeux, c'est criminel.
Et juste, pardon, je reviens sur les.
On embête lui qui veut parler sur
un Virgin Peace, s'il vous plaît.
Je reviens sur les chemises. Je reviens sur les naturopathes, parce que c'est vrai que j'ai dit tous les naturopathes ne sont pas des Casasnovas. Mais... Alors, oui, on a fait plein de sujets à vrai ou fake pour montrer que la naturopathie, c'est pas une science, c'est pas une médecine reconnue et tout. Ce que je voulais dire, c'est que tous les naturopathes ne sont pas forcément des gens dangereux comme peuvent l'être. Thierry Casasnovas, mais on est bien d'accord que la naturopathie, c'est pas une médecine reconnue. Voilà, c'était juste pour faire la petite aparté, qu'il n'y a pas de malentendu.
Tu n'as pas promu la naturopathie. Exactement. À l'instant, quoi.
Voilà.
Mais jamais loin.
Les chemises.
Le but du vaccin n'a jamais été de les protéger, mais c'est de les empoisonner. Parce que les vaccins sont des poisons calculés.
Cette désinformation est amplifiée sur les réseaux par des influenceurs en quête de notoriété. Exemple avec Idriss Aberkane, un essayiste qui se targue d'être titulaire de plusieurs doctorats en sciences humaines est devenu un des porte-étendards de la lutte contre les mesures
sanitaires. Pourquoi tu
rigoles, Julien ? Il n'existe aucune preuve scientifique du succès médical du confinement.
Désormais, il se fait le relais de toutes les théories les plus controversées, voire fantaisistes. Dernièrement, il entretenait l'hypothèse selon laquelle le séisme en Turquie, qui a fait plus de 50 000 morts, aurait été provoqué artificiellement.
Il serait tout à fait faux et mensonger d'enlever, d'écarter, d'éliminer immédiatement la possibilité que ce fût le fruit d'une bombe vibratoire.
Ça, c'est génial.
Une
ça.
Bombe vibratoire.
Mais ça, pareil, cette vidéo d'Idriss Aberkane.
Elle a cartonné.
Ouais, mais surtout, elle est archi intéressante parce que c'est intéressant de voir la construction de cette vidéo. Là, j'ai pris un tout petit extrait, mais sa vidéo, elle dure 20 minutes, je pense. Et en fait, pendant 20 minutes, il met plein d'arguments. Ouais. Parce qu'il dit pas.
Mais la phrase elle est top là. Il est impossible d'écarter tout à fait la théorie.
C'est ça le problème.
Il dit pas que c'est une bombe vibratoire.
Oui, parce que c'est ça.
Il dit pas ça. Il dit c'est juste on ne peut pas écarter absolument le fait.
Et c'est à toi de prouver que c'est pas une bombe vibratoire. Tu vois l'inversion de la preuve.
Et dans sa vidéo c'est ça. Il montre qu'il y a déjà eu des recherches sur des armes. Voilà. C'est la vidéo qu'on voit en haut à gauche.
Les armes sismiques existent-elles?
En fait il va montrer que dans l'histoire il y a eu des recherches sur ces phénomènes et donc eh bien on peut pas dire que c'est pas une bombe vibratoire. Donc en fait c'est assez intéressant de cette vidéo, tout son cheminement pour aboutir à cette phrase finalement où il dit pas que c'est une bombe vibratoire mais il dit ah je pose la question quand même, on peut pas dire que c'est pas une bombe vibratoire. Et c'est assez intéressant de voir ce raisonnement.
Un récit lunaire mais qui séduit. Sur YouTube, celui qui se présente comme un hyper docteur est suivi par plus de 700 000 personnes. Sur Twitter, ce sont presque 300 000 internautes qui se sont abonnés à son compte. Surfer sur les intox, une manière de se créer une communauté. Exemple aussi avec le blog France Soir. Pendant la pandémie, tous les désinformateurs s'y retrouvent, comme le professeur Perron, écarté de l'APHP pour ses propos douteux sur le Covid. Il défend la thèse d'une pandémie sciemment organisée.
Je pense que tout ça a été planifié parce que c'est pas possible autrement.
Mais certains médias traditionnels servent aussi de caisse de résonance à ces intox. Christian Perron, par exemple, est également invité dans des émissions plus grand public. Sur Sud Radio, chez André Bercoff, ou dans l'émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste » où il dit ceci sur les vaccins anti-Covid.
Ce vaccin n'est pas un vaccin, je l'ai dit depuis le départ, c'est un produit expérimental qui est en train d'entretenir et d'augmenter l'épidémie.
Des individus présentés comme des lanceurs d'alerte, mais dont les propos vont à l'encontre du consensus scientifique et sont...
Juste une petite pause sur la séquence médiatique, là. On a vu François, dont on parle parfois le matin. François n'est plus un journal. Ce sont des gens qui ont racheté la marque François et c'est devenu un blog un peu complotiste, on l'a vu à l'instant, mais on a vu une radio qui est Sud Radio, voilà, qui, on va dire, a une façade un peu plus présentable. Et on a vu TPMP, qui est une émission qui est regardée en moyenne par 1 million, 2 millions et demi personnes tous les soirs, et qui a donné la parole à ces personnes.
Oui, en fait, ce qui est assez intéressant avec André Berkoff, du coup, c'est le journaliste qu'on a vu sur Sud Radio. Et TPMP, c'est le côté « on défend la liberté d'expression ». Et du coup, toutes les paroles sont bonnes à entendre. Quoi. En fait, on va donner vraiment la parole à tout le monde.
Mais c'est vrai que c'est un argument très fort, la liberté d'expression.
Oui, voilà, tout le monde a... Tous les avis se valent. Et du coup, eh bien, tout le monde va donner son avis. Et du coup, Cyril Hanouna et André Berkoff se défendent un peu de dire, voilà, nous, on défend la liberté d'expression, on donne la parole à ces gens-là. Et les médias qui ne veulent plus leur donner de la parole, bah vous restreignez la
alors que c'est important de comprendre que là on ne parle pas d'opinion. C'est-à-dire, est-ce que, je ne sais pas, tel produit est dangereux pour la santé? Ce n'est pas une affaire d'opinion. Ça, c'est des faits. C'est parce que si jamais vous vous trompez, ça touche à votre santé, vous risquez d'en mourir. On n'est pas sur de l'opinion. L'opinion, c'est quoi? C'est de dire, la réforme de retraite, vous êtes pour ou vous êtes contre? Là, c'est de l'opinion. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Je suis contre pour telle et telle raison, etc. Mais la personne qui vous dit qu'on se soigne avec de l'urine, je vais relancer les commentaires sur le pipi, ouais. Mais je veux dire, là, c'est quelque chose qui est dangereux parce que ce n'est pas tellement que vous buviez de l'urine, j'imagine que ce n'est pas très bon pour la santé. Mais c'est surtout qu'ensuite, vous n'allez pas aller voir un vrai médecin. Et donc, vous allez peut-être mourir d'une maladie qui aurait été détectée par un vrai médecin. C'est ça le problème. Donc, toujours les gens qui nous disent « mais vous n'êtes pas pour la liberté d'expression ». C'était le grand argument de Trump aussi. Il disait « mais moi, je suis pour la liberté d'expression totale ». Mais si, que tout le monde donne les opinions qu'il veut. Mais quand on est sur des faits, c'est-à-dire sur des choses qui peuvent être dangereuses, c'est important qu'on s'entende sur les faits, pas les faits alternatifs. J'ai vu que les gens s'en rappelaient ici.
Bon, il y a quelqu'un qui nous a donné rendez-vous dans le chat tout à l'heure pour la fin du stream qui nous dit avoir le Covid et a commencé à se soigner grâce à nous au pipi ce soir. Il va nous tenir au courant de l'évolution de la maladie d'ici la fin du stream.
Je ne suis pas sûr d'avoir envie de voir vraiment l'évolution. Mais
merci pour l'humour, j'adore.
On mise en valeur par ces médias.
La désinformation est un business et un créneau médiatique. Et c'est important de le comprendre. On vous diffuse une information fausse ou incroyable parce qu'on a intérêt à générer de l'audience et à faire de l'argent avec ou de la réputation. Il y a toujours une récompense pour celui qui diffuse la fausse info. C'est devenu un business.
Influenceurs, présentateurs déchus ou scientifiques marginalisés, les profils de ces désinformateurs sont variés. Mais ils se rejoignent sur une position anti-système et certains sont prêts à passer à l'acte.
Membres du gouvernement, je vous adresse cette première sommation. N'attendez pas de démissionner, faites-le sur le champ. Nous allons arrêter et destituer le président.
Rémi Daillet est l'homme soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia au printemps 2021. Une fillette placée à l'aide sociale à l'enfance. Il est également mis en examen dans un autre dossier pour association de malfaiteurs terroristes, soupçonné d'être l'inspirateur d'actions violentes contre des lieux de pouvoir, des antennes 5G et des centres de vaccination.
Rémi Daillet, lui, il agrège vraiment toutes les théories complotistes. C'est-à-dire que pour lui, l'école, c'est dangereux, donc il faut faire l'école à la maison. Il est anti-vaccination, il propose même des faux certificats de vaccination. Mais il va plus loin, il ne s'arrête pas là. Il explique que tous les politiques sont corrompus, que ce sont des pédophiles notoires et que donc il faut renverser ce gouvernement.
Ce que je vous amène, c'est l'extinction du système.
Un discours qui, en France, n'a pas mené à des incidents majeurs. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, ce genre de récit...
Alors, il y a les agrégateurs de contenu et il y a les agrégateurs de thèses complotistes. Là, on est sur un champion, là. Si
mais là, là, on était vraiment sur un cas extrême. Lui, on l'avait pris pour montrer comment... parce que ce qui est intéressant avec Rémi Daillet, c'est que autour de lui, et c'est notamment l'affaire avec l'enlèvement de la petite Mia, c'est ouais. Qu'on avait tout un groupe de personnes qui pensaient vraiment à des théories complètement lunaire. Il y a les antennes 5G, ça nous contrôle, c'est dangereux. Il y a des élites pédosatanistes qui enlèvent des enfants et tout. Et comment en fait toutes ces théories, il y a toute une communauté autour de Rémi Daillet qui pense à ça et qui finalement va aller jusqu'à on va enlever cette petite fille Mia, ouais. Donc qui est placée à l'aide sociale à l'enfance parce qu'on pense que sinon elle va eh bien, elle va servir à un réseau, à une filière, à une filière contrôlée par des pédosatanistes. Alors voilà, je veux un commentaire. On ne dit pas du tout que les enlèvements d'enfants et tout, ça n'existe pas. Hein. C'est pas du tout ce qu'on dit. C'est que dire qu'il y a des élites, voilà, pédosatanistes qui enlèvent des enfants et que placer son nom, les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance alimentent un réseau. Voilà, ça c'est du complotisme.
Propos qui ont été tenus récemment dans TPMP par l'ancien dealer des stars.
Quand il parlait d'adrénochrome, c'était un peu ça.
Il a utilisé justement cette théorie.
Et Rémi Daillet, du coup, c'était intéressant de voir sur quelles actions ça avait abouti. Et on voit qu'il a été mis en examen derrière pour ça.
Il en est où sur un plan judiciaire? Il faudrait que
vous allez nous le dire dans les commentaires. Ouais. J'ai pas suivi. Est-ce qu'il a été condamné ou pas? Franchement, vous allez nous dire ça.
Moi, je vais faire une petite recherche parce que du coup, j'aime pas rester sur une info. Lui, j'ai bien envie de savoir ce qu'il est devenu. C'est Rémi?
Rémi Daillet. Je crois que c'est avec un Y. Voilà, tu vas trouver Rémi Daillet Widerman. C'est lui.
C'est lui là?
Ouais.
Je veux savoir où est son parcours judiciaire parce que manifestement. Alors, il en est où? Donc mars 2022, 7 personnes interpellées dans un dossier lié au complotiste Rémi Daillet.
Enfin, il est en prison, hein, je pense.
Il
était en Malaisie, je crois.
Il est en préventive.
Il est rentré et je pense qu'il a été détenu. Hein. Est-ce qu'il y a encore? On n'a pas fait l'update.
Non, c'est parce que pour le coup, quand je vois le personnel...
L'article du Monde, là, peut-être le dit. Là,
ici, là. Voilà, tenez, hop, je vous le mets, les amis. Donc là, c'est un article qui date de la fin février 2023, donc assez récent, qui nous dit peut-être où on en est. Parce que là, du coup, j'ai envie de savoir quels sont... Non, bah non. Donc là on ne l'a pas. Si tu l'as...
Non,
on ne l'a pas. Dans le chat, je suis sûr que quelqu'un nous a filé l'info. Ok, bah je fouillerai après l'émission, parce que du coup... parce que manifestement, il a été mis en examen, hein, c'est ça?
Pour plusieurs trucs, parce qu'il est mis en examen dans plusieurs affaires...
Ce qui est génial, c'est que je sais qu'il y a plein de gens là qui sont en train de chercher pour nous, pour nous trouver l'info. Quoi.
Que pensez-vous du travail de Carl Zero?
Qui parle aussi des enlèvements. Ouais. Carl Zero, récemment, c'est affreux parce qu'on n'arrête pas de citer TPMP.
Carl Zero
qui a été invité récemment de TPMP. Au nom de la liberté d'expression, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure.
Il trouve un tout autre écho. Janvier 2021, des partisans de Donald Trump envahissent le Capitole, encouragés par ce dernier quelques minutes plus tôt.
On va marcher jusqu'au Capitole.
Trump refuse de reconnaître sa défaite à la présidentielle et alimente la théorie d'une élection truquée.
C'est évidemment de la désinformation, c'est une façon de présenter la réalité qui l'arrange, qui va dans le sens de ce qu'il veut faire penser aux gens. Et il a gouverné comme ça pendant 4 ans. Et d'une certaine manière, au Brésil, Jair Bolsonaro a fait à peu près la même chose.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Merci pour la pub. 3, 2, 1, et on la passe.
Le scénario du Capitole se répète au Congrès brésilien. Les partisans de l'ex-président Bolsonaro envahissent les lieux de pouvoir, galvanisés par la thèse d'une élection falsifiée.
Question intéressante de Chris. Vous pensez qu'il y a eu un avant-après Donald Trump dans la propagation de la désinformation? On a parlé du rôle important qu'a joué la crise sanitaire. Est-ce que Trump a été un accélérateur?
Un accélérateur, je ne sais pas, mais en tout cas, il a montré qu'on pouvait, en tout cas, surfer sur les fausses infos et en faire vraiment un argument de campagne, un argument de faire de la politique. Et surtout aussi, il a sans force, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les communautés qui suivaient Donald Trump. Il y a une communauté, je vois quelqu'un en parle, c'est ce qu'on appelle les QAnon, qui est du coup une communauté aux États-Unis qui croit à plein de théories, notamment qui est des élites pédosatanistes, etc. Et Trump a jamais... Alors, je ne crois pas que Trump ait dit qu'il y a des élites pédosatanistes, mais en tout cas, il drague un peu aussi ces communautés-là. Donc on voit comment la désinfo, ça a été une manière de, pareil, avoir des gens autour de lui et une manière aussi de gouverner.
Après, je voyais la question, est-ce que ça peut arriver en France? Je pense que Trump, il a montré que dans un grand pays... démocratique. Les États-Unis, c'est quand même une grande démocratie solide. Elle a même résisté à Trump. Bah, ça peut arriver, et je pense qu'il faut tous qu'on ait ça en tête. C'est-à-dire que nous, on a tendance, les Français, souvent à faire un peu les marioles en disant « mais ça, c'est un truc américain, ça ne peut pas arriver chez nous ». J'en serais pas si sûr. Pour l'instant, les candidats qui surfent vraiment outrageusement comme lui sur les fausses informations, ils n'ont pas fait des scores énormes, mais je ne présagerai pas de l'avenir, on ne sait pas.
Mais c'est vrai qu'on peut dire quand même aujourd'hui, pour se rassurer un petit peu, que dans les candidats les plus importants, ceux qui sont crédités des intentions de vote les plus importantes, par exemple pour la prochaine présidentielle, on est d'accord qu'on n'a pas de candidat de premier plan aujourd'hui qui surfe sur la désinformation. On est d'accord.
Non, il n'y a pas de candidat qui en fait vraiment son fonds de commerce comme Trump en faisait son fonds de commerce. Après, il y a des candidats qui, on va dire, ne vérifient pas les infos parce que ça les arrange. Je vais citer par exemple Éric Ciotti. Régulièrement, Éric Ciotti va balancer une info sans l'avoir vérifiée du tout, simplement parce que ça correspond à son agenda politique. Donc lui, par exemple, comme il est très sur des questions de sécurité très dures, bah, dès qu'il y a une information qui dit voilà, il y a telle vidéo qui montre que...
il va lui donner de l'écho.
Il va dire c'est sûr, il va balancer l'info, mais il ne va jamais la vérifier. Donc en fait, il n'en fait pas son fonds de commerce. Ce n'est pas la même chose que Trump. Mais on voit quand même que la vérité lui importe moins que finalement son combat politique.
Bon, après, si... sans critiquer M. Ciotti directement, on parlait de candidat de premier plan à la présidentielle. Quand on voit que déjà ses ambitions locales sont compliquées.
Ah bah il est quand même, il y a un poste de responsabilité quand même. Ouais. Donc je veux dire.
Ça se passe pas très bien, la présidence de LR en ce moment. Hop.
Ce mépris des faits n'a pas autant imprégné le monde politique français. Mais certains acteurs de second plan jouent systématiquement avec la désinformation pour promouvoir leur discours. Ainsi, pendant la pandémie, Florian Philippot organise chaque week-end des manifestations pour protester contre les politiques sanitaires.
Le confinement, c'est un crime. Reconfiner aujourd'hui, c'est avoir du sang sur les mains.
Une rhétorique de la dénonciation excessive dont le président des Patriotes use systématiquement, quitte à diffuser de fausses informations. Exemple en septembre dernier, en plein débat sur la crise énergétique en France, avec ce tweet.
Le Canard Enchaîné révèle que le gouvernement veut mettre en place une police des températures pour contrôler les restrictions énergétiques cet hiver. Après les contrôles de QR code en terrasse, la police chez vous pour contrôler le chauffage. Folie tyrannique.
Le problème, c'est que l'article du Canard sur lequel se base Florian Philippot ne dit pas ça. La fameuse police des températures était une idée du ministère de l'économie pour contrôler certaines entreprises, et en aucun cas les particuliers. Surtout, et l'article le dit bien, cette idée n'a pas été retenue par le gouvernement.
Dans la course
à la présidence.
Ça c'est important, dis-moi si je me trompe, parce que pour qu'une info de type complotiste ou erronée puisse avoir du succès, il faut toujours qu'elle ait une base de vérité. Or là, ça part quand même d'un truc qui a été pensé à Bercy.
Hein, ouais, c'est ça. Lui, il se base sur un vrai article du Canard Enchaîné, qui est un vrai article. C'est juste qu'il va prendre le titre.
Ouais.
Je crois que dans le titre, il y a police des températures, mis entre guillemets. Et lui, il le prend et il s'arrête là, quoi. Alors, je pense qu'il le fait sciemment. Ouais. Mais du coup, ça marche, quoi. Parce qu'on voit ça, on se dit, ah ouais, une police des températures, la vache, c'est chaud quand même.
Alors, Renan qui cite le concept qu'on a inventé ici, qui est l'info augmentée. Par l'échange, on essaie d'arriver à une information. Là, c'est l'info diminuée.
Un peu ça. Il y avait quelqu'un qui posait une question sur Florian Philippot.
Ouais.
Il disait, mais d'où il tire ses sources de financement? Je l'ai vu passer un peu dessus.
Ouais.
Et alors, honnêtement.
Il te demandait si t'avais enquêté dessus.
Alors,
si
on pourrait imaginer qu'il va toucher de l'argent, de puissances étrangères et tout ça. Moi, j'ai absolument aucune information là-dessus. Ce que je sais, c'est que par contre, son discours, autant électoralement, il marche pas tellement, il arrive pas à galvaniser un électorat. En revanche, ça rapporte de l'argent parce que les gens prennent leur carte au parti des Patriotes. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits à son parti et je pense qu'ils ont payé leur carte, ce qui fait qu'il est capable d'avoir des moyens. Et par exemple, nous, quand on allait à ces meetings, autour des meetings, il y a beaucoup de sécurité, des estrades, ça coûte de l'argent. Et donc moi, je me demandais aussi, mais comment il fait pour trouver ça? Et en fait, c'est parce que il y a beaucoup de gens
militants, en fait.
qui payent leur carte. Pour un tout petit parti, il a beaucoup de militants.
Ouais, il a malgré tout des militants très fidèles, c'est ce qu'on dit « the bright side of life ».
Ouais. C'était intéressant de voir l'évolution de ces meetings au fur et à mesure de la pandémie, puisqu'au début, il était devant le ministère de la Santé. Il disait « tous les week-ends, je vais sous les fenêtres de Véran ». C'était un peu son credo. Et c'était une toute petite estrade avec, 50 personnes autour.
Et puis,
elle s'agrandit. À la fin, il était au Trocadéro avec une énorme scène et tout. Donc, c'était aussi intéressant de voir son évolution.
Ciel,
Un candidat s'est aussi distingué pour ses arrangements avec les faits, notamment les événements historiques.
Je dis que Vichy a protégé les juifs français et qu'il a donné les juifs étrangers.
Un argument qui fait bondir les historiens.
La politique de Vichy consiste à collaborer et à mener une politique antisémite propre qui vise à se débarrasser du maximum de juifs indésirables. C'est une politique qui, de fait, n'a absolument pas été protectrice des juifs français. Puisque dès la rafle du Veldiv, vous avez 3000 enfants français qui sont arrêtés.
Mais le candidat reconquête persiste. La manipulation de l'histoire comme stratégie politique.
C'est un sujet sur lequel Éric Zemmour a toujours communiqué. Ça lui permet aussi de renvoyer un message qui est qu'on voudrait cacher, on voudrait masquer la vérité en créant une sorte de politiquement correct ou de pensée unique. Et que lui se vit et se montre comme le dénonciateur de ça, alors que toute la recherche historique a démontré que les thèses d'Éric Zemmour étaient fausses.
Plus récemment, c'est la communication du gouvernement qui a été critiquée. Ici, pas de manipulation historique ou de théorie fantaisiste, mais des approximations, voire des intox. Pour défendre une réforme des retraites qui met le pays en ébullition, l'exécutif a par exemple donné ce chiffre.
La retraite minimum à 1200 euros.
Un plancher qui est à 1200 euros.
Nous allons mettre la retraite minimum à 1200 euros.
Une information incorrecte. Contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, tous les retraités n'auront pas une pension minimale de 1200 euros.
Pour moi, il y a peut-être une volonté de raconter n'importe quoi, d'embrouiller les gens, ça c'est sûr, quelque part. Hein. Mais il y a aussi eu une terrible maladresse et une vraie bêtise en matière de communication. La meilleure communication politique, ça reste celle qui reste près de la vérité. On peut dire ce qu'on veut avec le temps. Quand on est dans un régime démocratique, c'est ça qui paye. Quand on est une dictature, c'est différent.
Sur les 1200 euros, hein, donc effectivement, certains membres du gouvernement ont déclaré très clairement à un moment sur les plateaux, au début du débat sur la fin des retraites, que la retraite minimale pour tous les Français, on l'a entendu, hein, ce serait 1200 euros. On s'est rendu compte après, donc après le travail d'un économiste, tu étais Julien
Zemmour.
Il s'appelle Zemmour. Aucun lien de parenté avec Monsieur 7%, comme vous l'appelez dans le chat depuis tout à l'heure. Et puis le travail aussi de journalistes qui se sont rendus compte qu'effectivement, ces 1200 euros minimum, ça allait concerner qu'une toute petite partie de la population, carrière complète, etc. Est-ce qu'on est dans la désinformation volontaire, un mensonge décidé en haut lieu et affirmé, ou est-ce que, pardon, c'est de l'amateurisme de gens qui parlent en fait d'un texte qui ne l'ont pas lu, qui ne savent pas exactement, alors qu'ils sont ministres, ce qu'il y a dans cette réforme des retraites. Dans les deux cas, c'est embêtant, mais votre sentiment?
Bah,
parce que c'est pas la même chose, quoi, de désinformer parce qu'on ne fait pas bien son travail, d'être désinformé parce qu'on le fait de façon calculée et cynique, quoi. Alors le résultat,
là,
est le même,
on a plus l'impression que c'est une sorte d'amateurisme, quoi. Parce que quand on écoute, il y a quelqu'un qui cite Elisabeth Borne.
Ouais.
La première conférence sur cette réforme des retraites, c'est Elisabeth Borne qui parle de ces fameux 1200 euros.
Ah oui, c'est
elle
vrai.
Dit, c'est 1200 euros, ça sera pour ceux qui font une carrière complète au SMIC. Alors, je crois que c'est pas tout à fait précis, puisqu'elle aurait dû dire carrière complète au SMIC sans pause
dans les cotisations,
oui,
c'est ça.
Et pas en aidant à travailler en temps partiel, en temps complet,
ouais,
pardon.
Ouais.
Et derrière, on voit que c'est repris sur les plateaux par certains ministres, par certains députés, par certains membres de la majorité, qui transforment ça en 1200 euros de retraite minimum. Donc, soit il y a le côté... Bah, c'était une réforme compliquée, on veut marquer des chiffres précis, et les 1200 euros, bam, ça c'est un chiffre qui marque. Et du coup, vu que c'est un chiffre compliqué, on veut donner une explication simple, et ça se transforme en 1200 euros, bah, c'est la retraite minimum. Soit certains ont peut-être pas compris, mais ça paraît quand même dur à se dire que là, certains ministres n'ont pas compris cette réforme. Mais on peut se dire que c'est plus une forme d'amateurisme, finalement, et d'erreur de communication, quoi.
Moi, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup l'idée qu'il faut dire des choses très simples aux Français. C'est-à-dire qu'en fait, les Français, ils n'ont pas envie qu'on leur dise des choses compliquées, ils ont envie d'être rassurés. C'est comme avec les masques. C'était compliqué de leur expliquer qu'on n'avait pas trop d'infos sur le virus, donc on préférait leur dire les masques,
ça va. Les conséquences sont catastrophiques.
Et ensuite, mais c'est pareil sur cette question des 1200 euros. On va leur dire qu'en gros, ça va être une réforme qui est plutôt juste parce que 1200 euros sera un argument qui va circuler. Et après, il n'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave parce que finalement, ça va marcher avec la com du gouvernement. Et je pense qu'effectivement...
Ça peut plus marcher, ça, aujourd'hui.
Ben, ça marche plus, oui, voilà. À cause des émissions que tu fais, à cause du travail qu'on fait, nous, à cause de la société qui, maintenant, est vachement plus en alerte là-dessus. Et je pense qu'il faut un peu changer de braquet et se dire que les Français, on peut leur expliquer des choses compliquées, on peut leur expliquer des choses nuancées, et que, justement, je pense qu'ils apprécient de ne pas être pris pour un peu des idiots où on leur dit des choses un peu faciles.
Est-ce que c'est pas le côté lumineux de cette pièce? C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les mêmes outils de propagation très rapide d'une information aujourd'hui, alors qui nous fait peur avec la désinformation, avec les réseaux sociaux, on se rend compte aussi qu'un mensonge, ou un demi-mensonge, en fait, il se débunk très très vite aussi. En fait, c'est les deux faces de la même pièce, en fait.
C'est qu'en fait, on critique toujours Internet et les réseaux sociaux pour dire c'est le terrain de la désinformation, etc.
Pas que.
Mais ce que tu montres ici avec ta communauté, ou ce que nous on fait comme travail avec les gens qui nous font des retours, c'est que il y a le poison qui a été initié par les réseaux sociaux, mais quelque part l'antidote, il est aussi donné par les réseaux, par des communautés ultra précises, on le voit. Mmh. Des gens qui nous disent oui, mais Étienne Klein, il est aussi
philosophe des religions.
Des gens pointus. Et pas non plus dans le doute généralisé, donc à dire n'importe quoi, mais qui vont faire des recherches. Donc c'est un outil fantastique. Après, on pourrait en parler des heures, mais comme les réseaux sociaux ont fait écho à la désinformation de façon très très forte, et je pense qu'il faut faire attention à ça, mais on est en train de le prouver là, par les réactions des gens, c'est aussi un antidote fabuleux, je trouve.
Ouais, c'est plutôt rassurant, ça, du coup.
Car dans les dictatures et les régimes autoritaires, la manipulation prend une toute autre ampleur. Et la guerre leur donne un prétexte parfait pour construire une réalité alternative. Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine.
Hop, je vous la skip. 3, 2, 1. Hop, désolé.
J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine.
Accuser les adversaires d'être des nazis, nier toute implication dans des massacres ou des bombardements, les ingrédients de la propagande de guerre russe. Ainsi, lors du bombardement de la maternité de Mariupol, le Kremlin accuse les victimes d'être des actrices. Argument similaire concernant les massacres de civils à Boutcha.
C'est une mise en scène, c'est faux, c'est une provocation.
C'est une technique qui est très couramment utilisée. On accuse de mise en scène, on accuse de recourir à des acteurs. En fait, la parole politique, c'est un instrument de la guerre. Ce n'est pas un moyen de décrire le réel ni l'histoire.
Une propagande et un récit repris sur les réseaux sociaux par une frange de la population en France. Des groupes aujourd'hui clairement identifiés.
Là, la guerre se déclare. Et tout à coup, il y a une énorme communauté qui grossit. Toutes ces personnes-là ont partagé des éléments de langage de la propagande du Kremlin, les biolabs, les nazis ukrainiens, etc., etc. Ici, on retrouve exactement le même écosystème informationnel que pour la pandémie de Covid-19, à savoir François Asselineau.
Mais pourquoi c'est les mêmes?
Bah justement, c'est ce dont on parlait.
C'est vachement intéressant.
Ouais, c'est ce dont on parlait.
Tu en parlais tout à l'heure. Donc c'est on change de thématique. C'est plus la crise sanitaire, c'est la guerre en Ukraine, mais c'est les mêmes acteurs qui relaient ces informations. Pourquoi ?
Bah, y a le côté... Déjà, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi... T'en as une partie qui sont proches de l'extrême droite. Florian Philippot,
Thierry Mariani...
Il
est député européen RN.
RN. Et on sait que l'extrême droite française a toujours été proche de la Russie. Mariani, par exemple, il s'est rendu en Crimée pour observer les référendums, les référendums de la Russie. Donc voilà, on sait qu'il y a un lien entre l'extrême droite française et la Russie. Donc c'est pas très étonnant qu'on les retrouve sur ce créneau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple dans le côté Florian Philippot, c'est le côté on est contre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est dans la dénonciation.
C'est l'anti-système.
Il y a le côté anti-système, ouais. Et du coup, voilà, nous, on va prendre le côté de la propagande russe, puisque on est contre une soi-disant
vérité.
Une soi-disant pensée
dominante.
Pensée dominante et tout. Et du coup, on va se retrouver sur ce créneau-là. C'est ce côté anti-système aussi qu'on.
Mais après, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la façon dont ces communautés. On le voit par les infographies qui ont été faites par Chaval Arias, c'est des sortes de communautés avec des liens très forts entre elles, donc des comptes Facebook, Twitter, etc., de gens qui à la base n'étaient pas forcément des gens qui avaient les mêmes idées. Il y a des gens qui viennent plutôt de l'univers de la naturopathie, des gens qui étaient plus des antisystèmes peut-être parfois de gauche, d'autres des antisystèmes de droite, mais que bon, ces gens, ces communautés se sont créées des liens, parfois des liens contre nature. Hein. Pourquoi un professeur de yoga naturopathe irait retweeter du Philippot? Ça paraît étonnant.
Ouais.
Mais au final, ces communautés, elles existent. Parfois, elles se mettent un peu en sommeil. Et il le montrait très bien. Elles se réactivent d'un coup quand il y a une thèse ou un combat qui vaut le coup et ils se remettent dessus. Donc c'est comme si ce réseau était dormant, il s'agrandissait et tout à coup il se réveillait sur un nouveau combat.
Pour
donc,
se nourrir à nouveau en fait d'un débat, d'une polémique.
Donc en ce moment par exemple c'est le climato-scepticisme où ils ont trouvé qu'en France personne n'était quasiment climato-sceptique il y a encore 10 ans. C'est-à-dire, les gens en France savaient très bien que ces réchauffements climatiques c'est une réalité. Et là, ces mêmes réseaux qu'on voit là sont en train de se jeter sur cette thématique pour dire bah tiens, ça c'est un combat anti-système, comme tous ils disent ça, nous on va dire le contraire et ça va nous faire monter sur les réseaux sociaux. Et ça c'est en train de monter en ce moment.
Il y a Minagami qui nous rejoint, qui dit bonsoir, je viens d'arriver, est-ce qu'il y aura une rediffusion? Sachez que le documentaire qu'on est en train de regarder, vous pouvez le voir sur France Info, sur YouTube aussi, vous tapez Désinformation, la contagion, c'est Luc Brisson qui l'a réalisé. Sachez aussi que ce live il devient replay juste après la fin. Bon, là on a eu un petit cut, la box a craché. Histoire d'interrupteur, c'est pas grave. Et puis les petites pubs pop-up là qui arrivent, sachez que tout ça, ça va être nettoyé. Et quand ça va arriver, notamment sur YouTube, d'ici demain ou après-demain, hein, cette émission que vous trouverez en VOD sur ma chaîne YouTube, en fait, vous la retrouvez toute clean grâce au travail de Mathieu, sans les petits pop-up de pub et sans la coupure qu'on a eue de 4-5 minutes quand on a découvert que la box était connectée à un interrupteur de la salle tout à l'heure.
Magique.
C'était magique ça.
Florian Philippot, Yves Pozzobiduc-Borgo. Et puis donc aussi Thierry Mariani, Dupont-Aignan, etc.
Des personnalités proches de l'extrême droite qui admirent notamment les valeurs conservatrices et la posture autoritaire de Vladimir Poutine. Une idéalisation du régime russe qu'on retrouve chez de nombreuses figures anti-vaccins, comme le chanteur Francis Lalanne.
Qui peut reprocher à Poutine de ne pas vouloir cette décadence occidentale?
Ou l'ex-journaliste Richard Boutry qui légitime l'intervention russe en Ukraine.
Poutine, dans un souci de défendre son peuple et derrière tout cela la souveraineté de son pays, a bien sûr raison d'intervenir en Ukraine.
Un discours qui témoigne d'un certain enthousiasme pour la Russie et son régime. Un sentiment que l'on retrouvait déjà parfois chez les Gilets jaunes.
Vous attendez concrètement pour arrêter la mobilisation?
Que monsieur Poutine prennent la parole et raisonne notre guignol de président.
Ici, cette manifestante se fait interviewer par la chaîne RT appartenant à l'État russe. Une chaîne qui avait ultra-médiatisé le mouvement des Gilets jaunes, notamment par le biais de ses réseaux sociaux.
L'espace de débat de nos démocraties se passe de plus en plus sur les réseaux sociaux et les Russes le savent depuis longtemps et ils sont assez en pointe dans le domaine de la présence et de l'orientation des débats dans l'espace Internet, y compris les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est très important.
La Russie a finalement bien compris.
Luc ?
Non, là juste pour conclure ce que dit Elsa Vidal, là, elle aborde un autre thème. C'est vrai qu'on n'a pas trop développé dans ce documentaire, c'est le côté désinformation de la part d'un État. Parce que là, on parle de la Russie et on sait que la Russie et certains pays font ce qu'on appelle de l'ingérence dans d'autres pays. On a vu la Russie, par exemple, avec l'agence qu'avait créée Prigogine, donc qui est celui qui aussi a créé la milice Wagner.
Ouais.
Donc voilà, comment il peut y avoir de la désinformation à l'échelle d'un État, c'est ce que dit Elsa Vidal.
Beaucoup de réactions sur RT, donc la chaîne de télévision russe qui diffusait en France, qui a été interdite d'émettre en France du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, elle a été interdite d'émettre au niveau européen, donc ils ont été interdits d'émettre, ils ont continué à émettre.
Au niveau européen, ok.
Au niveau européen, et la France a fait pareil. Ils ont continué pendant un moment sur Internet, mais ils ne devaient plus être accessibles en France. Et là, effectivement, ils ont carrément fermé, parce que pour des questions d'argent, je pense qu'ils n'avaient plus de sources de revenus, donc ils ont fermé, évidemment, en Europe, hein, parce qu'ils continuent à rechatouder dans d'autres pays.
D'ailleurs, alors je vois parfois passer sur Twitter des tweets de membres de la rédaction. Et à chaque fois, c'est identifié, Twitter met un petit message en disant « Attention, message venant d'un média contrôlé par un État.
Okay. » T'as vu que c'est la même chose maintenant pour la BBC sur Twitter.
Ah bon?
C'est-à-dire que Elon Musk trouvait que c'était pas normal que ça soit seulement Russia Today qui est son petit cycle. Donc maintenant, si tu vas sur la PBS, qui est le service public américain, ils ont été financés par un État. Ce qui, moi, personnellement, me choque pas du tout. France Télévisions est financée par l'État français, si vous voulez. Bon, voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'on est indépendant ou pas dépendant de l'État. Mais bon, voilà, c'est pas une information qui me choque. Moi.
Ouais, une info sur la source, c'est toujours important.
Pris l'une des faiblesses de nos démocraties. Des réseaux sociaux toujours plus influents, dont les algorithmes se moquent de la vérité. Si une info buzz, et même si c'est une intox grossière, elle se répandra comme une traînée de poudre. En France aussi, des communautés ont fait de la désinformation un point de ralliement. Persuadés qu'on leur ment, que le système les manipule, ils refusent en bloc ce qui vient de l'État, des scientifiques ou des journalistes. Galvanisés par la pandémie, et quelles que soient leurs origines idéologiques, ils cherchent en permanence de nouveaux combats et de nouvelles fake news. Nos sociétés sont aujourd'hui face à une vague de désinformation sans précédent, boostée au like et au partage. Une pandémie qui se propage et contre laquelle nos remèdes semblent dérisoires.
Ouf. On finit sur un petit truc un peu positif quand même là. Donc là, tu me décris, Luc, en fait, une vague, un truc qui va grossissant, qui se régénère à chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire, une nouvelle affaire. Et tu viens de dire que les moyens pour lutter contre ça, c'est dérisoire. Donc alors, il faut vraiment flipper ou quoi ?
Bah, vraiment flipper. Non, on va pas non plus inquiéter tout le monde. Mais ce qu'on constate, c'est que. Aujourd'hui, la lutte contre la désinfo, comme le font les journalistes ou aussi certains comptes sur Twitter, ça a des effets limités, on va dire. Puisque les gens qui sont dans ces communautés de désinformation restent dans ces communautés. Et nous aussi, c'est une critique qu'on pourrait faire aussi à ce qu'on fait nous, c'est qu'on va parler peut-être à des gens qui sont déjà... Alors convaincu, c'est pas le bon mot, mais déjà qui
sensibilisé.
C'est un peu
le cas ce soir d'ailleurs. On voit beaucoup, l'immense majorité des commentaires. Vous êtes au courant, vous connaissez les acteurs qu'on vous a présentés. Je dis acteurs de l'information, acteurs de la politique qu'on a présenté. Vous êtes informés. Parfois, vous venez même préciser des informations qu'on donne. Donc nous aussi, on est quelque part un peu dans une bulle. C'est ça que tu dis.
Oui, c'est ça. En fait, il y a des bulles un petit peu partout. Et du coup, c'est en ce sens que c'est nos remèdes semblent dérisoires, c'est un petit peu ça.
Regarde, par exemple, voir un message.
C'est juste que je vois tout à l'heure tourner le commentaire de quelqu'un qui se présente comme Crazy Bisounours. Lui, je le connais pas particulièrement, mais je vois ce qu'il écrit depuis tout à l'heure, et c'est typique.
Qu'est-ce qu'il dit ?
C'est typique, en fait, on remonte un peu. Il a des arguments que j'entends toute la journée, moi, sur les réseaux sociaux, qui sont des arguments toujours les mêmes sur, c'est nous, les journalistes, le problème, et puis la Russie, c'est plus compliqué. Faudrait remonter le fil de ces commentaires, mais je trouve que c'est assez symptomatique de comment certaines personnes, certaines communautés qui existent, qui représentent quelque chose, mais sont en train de monopoliser le débat. Et c'était super agréable de parler avec vous, même on va continuer d'ailleurs, parce que je trouve que le débat est vachement plus intéressant, parce que quand ces communautés elles arrivent, de Crazy Bisounours, qui finissent par répéter les mêmes éléments de langage, parce que c'est des éléments de langage, comme le gouvernement en a,
Magie de Twitch.
C'est quand même magique.
Donc,
lisons ces commentaires.
C'est pas caché. Voilà, vous savez que le streamer peut accéder
à l'historique. Je vais lire ces commentaires et je pense qu'assez naturellement, vous allez comprendre le point de vue de ce monsieur et le genre de commentaires qui, en fait, rendent le débat très difficile. Donc, RT était l'une des meilleures chaînes. Les gens qui allaient sur RT avaient plus de liberté d'opinion que sur France TV, c'est la vérité. Je croyais qu'un témoignage de vacciné qui a des effets secondaires ne compte pas et n'est qu'un fait isolé. Tous ces arguments, c'est des arguments qu'on a 70 fois par jour, qui font pas progresser le débat, parce qu'on les connaît, et j'ai déjà répondu.
Vous êtes des manipulateurs, nous a dit Crazy Bisounours.
Voilà, vous êtes le mot fast-checker. Ça, c'est dans des communautés. Alors là, je pense que c'est quelqu'un qui est proche de l'extrême droite, qui s'organise probablement sur des groupes Telegram, etc. Alors encore une fois, je connais pas Crazy Bisounours, mais j'ai tellement l'habitude.
Je t'invite à débunker les fact-checkers, une fois sur deux, c'est faux.
Voilà, et ça, c'est vraiment, tous les jours, on les a, ces arguments, et c'est une communauté très identifiée, qui vient sur Twitter bousiller les discussions. J'espère qu'elle n'arrivera pas sur Twitch, mais je vois que c'est ce genre de choses qui sont en train de se passer. Et sur Twitch, ce que je trouve génial, c'est que vous avez des modérateurs, et merci à eux, qui sont efficaces, qui sont polis, qui respectent le dialogue, qui aident le dialogue à se créer. Tant mieux s'il y a des crazy bisounours, mais il ne faut pas qu'ils prennent le pas.
Voilà, là, on arrive à échanger. L'idée aussi, c'est d'échanger avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Il y a Starwick 89 qui dit qu'il n'est pas d'accord avec vous, donc crazy bisounours, donc il a forcément tort.
Non,
c'est
pas du
qu'il,
tout.
C'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec nous qu'il a forcément tort. Mais quand crazy bisounours, donc on a eu accès à son historique, dit que RT était une chaîne de qualité où il y avait une vraie liberté de qualité d'information, quand tu regardes l'histoire d'où vient RT, comment était créée cette chaîne, qui était la ligne éditoriale de la chaîne et sa dépendance par rapport à l'État russe, tu ne peux pas, ça n'est pas un échange d'idées, c'est juste un fait en fait, ça n'est pas une chaîne libre en fait, voilà. Et ça peut irriter certains, mais bon, moi je suis journaliste depuis 25-30 ans, je travaille à France Télévisions depuis une quinzaine d'années. Les journalistes de France Télévisions, aucun journaliste de France Télévisions ne prend ces informations auprès de quelque pouvoir que ce soit un pouvoir économique, que ce soit un pouvoir étatique. On n'est plus à l'époque de l'ORTF où le ministre de l'Information, puisque ça existait, prenait son téléphone pour dicter les menus, les sujets qui devaient avoir dans les 20 heures. Ça existait, ça d'ailleurs, à une époque, okay. Du temps de Perfit. Bon, donc, alors ça, vous le croyez pas, mais c'est un fait. C'est-à-dire, celui qui arrivera à vous prouver qu'un ministre où un grand patron d'entreprise arrive à imposer un sujet à France Télévisions, le jour où vous arrivez à faire ça, je mange mon chapeau et je le mange en direct. Ça n'existe pas, en fait. Donc, ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord. C'est que juste, ça n'est pas une info. Pardon, je me fâche un peu.
Il y a des influences, des lobbies, etc. Et on est tous à gérer ça. Mais enfin, quand on prend l'exemple de la Russie, Russia Today, est-ce que vous croyez sérieusement que sur Russia Today, vous pouvez avoir quelqu'un qui tient un discours pro-ukrainien ? On critique les médias français pour l'absence de pluralité, etc. Mais en Russie, vous allez en prison si vous dites que la Russie a lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine. On ne parle pas de « on vous embête », on va en prison.
Récemment,
et Russia Today, on ne peut pas le dire à l'antenne, c'est impossible.
Vous avez lu cette info récemment, il y a un père de famille russe,
oui,
qui a été condamné à la prison ferme parce que sa petite fille, sa fille à l'école, a dessiné un dessin. Qui n'allait pas dans le sens de la théorie officielle, vous savez, de l'opération spéciale. Je contextualise. Donc, on est à l'école. La maîtresse demande des dessins pour soutenir les soldats russes partis au front. Tout, voilà. Hein, c'est pas l'institutrice qui prend cette initiative. Hein, c'est une demande du pouvoir russe. Les enfants font les dessins. Il y a un dessin qui ne va pas du tout, puisque c'est un dessin qui montre des populations civiles ukrainiennes, une maman, une petite fille, en train de se prendre des bombes sur la tête. Voilà. Que fait l'institutrice ? Elle appelle la police. Elle appelle la police pour dire il y a un problème avec ce dessin. Et effectivement, il remonte jusqu'au papa qui, par ailleurs, sur un plan local, effectivement, a pris parti assez courageusement en affirmant que lui, il ne croit pas à cette guerre de libération ou à cette opération spéciale. Et le père a été condamné de la prison ferme. Bon, bah, c'est ça, une dictature. Voilà.
Je vois quelqu'un qui dit on ne peut pas dire Macron est une ordure sur France Télévisions. Non, parce que Macron est une ordure, c'est une insulte. Et on ne dirait pas Marine Le Pen est une ordure, Éric Zemmour est une ordure. On n'emploie pas ce genre de langage. Après, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le gouvernement d'Emmanuel Macron fait des fausses informations sur le régime des retraites ? On vient de le faire à l'instant. Bien Je sûr. Suis journaliste de France Info, France Télévisions. Tu es journaliste de France Télévisions. Donc ça, on peut le dire. Alors, on peut toujours nous critiquer, mais il ne faut pas renvoyer dos à dos Russia Today et France Télévisions en disant c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ça, c'est vraiment ne pas connaître le fonctionnement des médias, je pense.
Je remercie juste un raid tout à l'heure parce qu'on a reçu un raid de F. Bardino. Je crois que c'est la chaîne que j'ai raid ce matin. C'est un stream hyper mignon entre la cuisine et la musique. Et je vois que vous nous avez raid tout à l'heure si vous êtes encore là, les streameuses, parce que vous étiez trois ce matin, ou les viewers. Merci beaucoup. Luc.
Non, je voyais un commentaire tout à l'heure qui disait « Est-ce que vous n'avez pas peur, en parlant de ces gens-là, comme on a parlé, de leur faire de la pub, justement, de donner une crédibilité à leur discours ?» Je ne sais pas si tu peux retrouver ce commentaire, c'était un peu,
bien sûr,
c'était un peu plus haut, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que, quand on parle d'un sujet, est-ce que ce n'est pas un petit sujet que nous, finalement, on va extrapoler en le
montant un peu en épingle ?
Non, pas en le montant en épingle, mais en le débunkant, quoi, en le prenant comme sujet. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est important de montrer que ces réseaux de désinformation, aujourd'hui, on les voit, il y a des communautés, c'est des réseaux organisés. Alors même si,
comme on l'a dit, hein, Internet, ça marche beaucoup en bulle et on peut ne pas du tout y être confronté. On peut aussi y être complètement confronté, être dedans sans forcément s'en rendre compte. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important d'en parler. Je sais pas si t'as retrouvé ce que...
Bah, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup de messages.
Mais voilà, c'était ce commentaire que je trouvais intéressant sur le côté. Est-ce que vous n'avez pas peur de leur donner de la visibilité
Parfois, vous posez la question.
Ah, mais tout le temps.
Mais oui, non, mais tout le temps.
Et en fait, notre pratique, elle peut évoluer. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, on est plutôt à... Sauf pour les personnalités qui sont vraiment publiques. Francis Lalanne, quand il raconte ça, bon, c'est une personnalité tellement publique et qui a quand même une communauté derrière qu'on en parle directement avec lui.
Ouais.
Après, quand il y a des comptes Twitter, par exemple, qui jouent de la désinformation en permanence, on a décidé de plus les citer. On floute le Twitter handle, donc le nom Twitter, parce qu'on estime que c'est l'idée qui est intéressante, mais la personne en elle-même, on ne veut pas lui donner
de la publicité. Vous ne voulez pas lui faire de publicité. Voilà. Ouais, il y a plein de messages intéressants. Moi, j'ai envie qu'on prenne un petit moment, parce qu'il n'est pas trop tard, finalement, ça va, on a été raisonnable. 22h29 pour regarder un documentaire qui dure 30 minutes, je crois. Ça fait 2h30 de stream. C'est bien, on est plutôt sur du rapide, sur de l'efficace.
Bienvenue dans le monde de Twitch.
Ouais. J'adore. Luc, tu avais déjà streamé? Tu avais déjà participé à un stream ou pas?
Oui, mais... Deux fois, je crois, c'est ouais. Le troisième.
Et ça te plaît? Ça te plaît?
Ah, moi j'adore ce média. J'en consomme pas non plus énormément. J'ai plutôt tendance à regarder des replays de Twitch sur YouTube.
D'accord.
Mais j'aime beaucoup ce média.
Allez, je remonte un petit peu dans les commentaires. Quand vous voyez un...
Des replays de stream, j'ai dit des replays de Twitch.
Oh, ça va en vrai. Ça va.
Ouais,
t'es vraiment un peu limite et on va te gentiment te moquer quand par exemple les Twitch shows. ou quand est-ce que tu fais ton Twitch.
Non, une fois j'ai fait ça, j'ai dit on va faire un Twitch et là je me suis fait vanner par tout le monde et moi je fais plus. Non.
Mais ça c'est les petites erreurs du début qui sont
parce que sinon on va dire que je connais pas.
Il y avait Alex Vizorek, alors il a une excuse, il est belge, qui était là vendredi et donc lui il a pas d'excuse parce qu'il stream pour France Inter une fois par semaine.
Il a dit quoi lui?
Il dit les Twitchos pour les viewers. Alors bon, moi sur le coup, j'ai dit bon, c'est en Belgique, on dit comme ça quoi. Mais il stream. Alors là, la question de Tridal, elle est importante. Comment parler à un complotiste? Mon père est tombé dedans, il ne regarde plus aucune info. SVP, aidez-moi.
Alors j'en ai beaucoup de messages comme ça. Moi sur mes réseaux sociaux, j'ai souvent des gens qui me disent ma copine, mon cousin que j'avais pas vu pendant un moment, je l'ai retrouvé et on n'arrive plus à parler. Et les repas de famille, par exemple, deviennent terribles parce que ils tournent en boucle et j'arrive pas à lui parler.
Tu arrives à donner des conseils toi aux gens qui t'interpellent comme ça?
Je pense que en fait c'est deux choses. Je pense qu'il faut à la fois être en alerte sur les arguments qu'ils donnent, parce que souvent les arguments qu'ils donnent, c'est des arguments qui sont donnés par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, donc il faut être capable de les débunker, donc de le contredire, mais efficacement, c'est-à-dire avec des choses précises. Et c'est là que j'espère que le travail qu'on fait, ça vous aide tous, c'est que nous, ce qu'on essaye, c'est d'être aussi précis que possible.
Il y a plein de messages dans le chat qui parlent de situations personnelles, de ce genre de choses.
Ça, c'est la première chose, c'est d'être rationnel, mais en plus, ça dépasse le rationnel. Et le premier aspect, c'est que souvent, c'est des gens qui se marginalisent tout seuls. C'est-à-dire que finalement, ils s'éloignent de plus en plus des autres, mais parfois de leur propre famille, dans une posture qui énerve tout le monde. C'est-à-dire que tu es à table avec et tu n'as plus envie de lui parler parce qu'il est en train de s'éloigner. Et en gros, tu as l'impression qu'il est toujours dans l'agressivité. Et je pense que des fois, de la gentillesse et de « je t'écoute, ce que tu dis m'intéresse, je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu es toujours à table avec nous et je considère que tu es toujours mon ami, tu es toujours ma tata ». Et je t'aime quelque part, et ben finalement c'est plus efficace que le travail qu'on va faire nous, qui va être de dire les faits. Je pense que de la relation humaine, ça recrée du lien, et c'est pour ça que ce combat, on peut pas le mener seul, parce qu'ils m'écouteront pas moi, alors qu'au final vous avez une chance, même si ça va pas être facile.
Ouais. Je l'aime bien ce conseil. Alors on fait un pas de côté, mais c'est une question qui me posait quasiment chaque matin, mais tout le monde n'est pas là chaque matin, je veux pas l'éluder. Totsi, je voudrais savoir ce que vous, journalistes, pensez de la possession de 90% des médias par des milliardaires. Alors, effectivement, vous avez des grands médias d'information en France qui appartiennent à des grands groupes, et notamment à des milliardaires, c'est vrai. Pas tous. Alors, parlons de parler de France Télévisions, parce que c'est un sujet que je connais un petit peu. Moi, j'ai travaillé dans le privé aussi, je travaille pour Europe 1, pour Canal+, je travaille pas que dans le public. Mais pour le coup, bon, il n'y a pas un milliardaire derrière France Télévisions. Ça, c'est un peu compliqué à affirmer. Donc, ça n'est pas le cas de 90% des médias, c'est le cas de médias importants et certains médias de qualité. Dans le tour de table capitalistique du monde, vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent. De Libération également. Le Parisien aussi.
Twitch,
les Échos aussi. Aussi, Twitch aussi d'ailleurs. Et donc, et ces journaux que j'estime moins de qualité à tel point que je vous lis tous les matins. Deux choses là-dessus. Alors, il y a actionnaires et actionnaires. Vous avez les actionnaires qui effectivement mettent beaucoup d'argent et investissent dans un média et laissent, parce que c'est leur conception peut-être de la démocratie, je ne sais pas, une certaine indépendance, voire une indépendance totale aux médias. C'est-à-dire qu'il n'est pas interventionniste. Voilà. Et j'en veux pour preuve le fait que les premiers à dénoncer un comportement qui ne serait pas celui-ci d'interventionnisme ou d'un actionnaire sur la ligne éditoriale, il serait dénoncé par qui ? Les journalistes du média en question régulièrement. Si vous suivez bien l'actualité médiatique, vous voyez des communiqués, notamment de ce qu'on appelle les SDJ, les sociétés de journalistes, qui, dans telle ou telle chaîne, c'est arrivé récemment aux Parisiens, sur des éditos que des journalistes du Parisien trouvaient un petit peu trop pro-gouvernement. Voilà. Ça a été dénoncé par qui ? Par les journalistes du Parisien. Vous avez quelqu'un qui a été le patron de la rédaction, je crois, des Échos, qui a été déboulonné il n'y a pas très très longtemps. Voilà, ça a provoqué des inquiétudes. Qui s'en est inquiété ? Les journalistes des Échos. Il y a une grande chaîne privée que je ne veux pas citer parce que c'est pas une très bonne pub pour elle, qui régulièrement ces dernières années a vu sa société des journalistes, donc les journalistes, dénoncer le fait que, eh bien, il y avait des publicités, pardon, des annonceurs qui mettaient de l'argent et de la pub sur cette chaîne privée et qui disaient, ouais, d'accord, mais le sujet là, dans le JT ou dans l'émission là, qui est pas très sympa pour ma marque, non, non. Et parfois la chaîne disait oui. Et ça a été dénoncé par qui ? Les journalistes de la chaîne en question. Ce que je veux dire, c'est que la propriété capitalistique des médias en France, c'est une vraie question. Et vous m'avez sensibilisé à cette question, c'est depuis le temps que je suis ici. C'est un vrai sujet. Il faut savoir qui possède les médias. C'est vrai. Mais ça n'est pas le seul critère pour juger de l'indépendance des médias. Vous avez des actionnaires qui sont plus ou moins interventionnistes, et puis vous avez aussi des médias, pour le coup comme France Télévisions, qui sont pas contrôlés par des milliardaires, comme vous le dites. Julien, lui, vous voulez rajouter un truc là-dessus ou pas ?
Non, et juste aussi dire que un média, ça, il faut de l'argent pour faire tourner un média, et souvent les médias se financent, alors sauf certaines exceptions, par exemple Mediapart qui se finance avec
100% les abonnements,
100% les
pub,
abonnements, exactement, pas de pub,
comme le Canard Enchaîné.
La plupart des médias se financent avec de la pub, et donc aussi se financent avec les milliardaires qui sont à leur tête.
Vous parlez, il y a beaucoup de gens qui parlent de CNews, je ne sais pas pourquoi. Mediapart avait parlé du financement sur un live et c'était passionnant. Mediapart qui stream effectivement récemment. Qu'est-ce que je pense de Blast ? Beaucoup de bien. De toute façon, les médias, c'est d'ailleurs, c'est comme les journalistes. Hein. C'est une erreur de dire les journalistes. Il y a des journalistes. Je pense que c'est aussi une erreur de dire les médias. Ouais, Blast, par exemple, média indépendant, on a parlé de Mediapart aussi, force est de constater qu'il y a un travail journalistique qui est extrêmement intéressant. Moi, je vous le dis souvent le matin, il faut s'informer auprès de plein de sources. Ne vous enfermez pas dans une bulle informative en lisant, même si c'est un très bon journal, le même journal tous les jours. Parce que si vous lisez, s'il vous plaît, quelque part, c'est qu'il fait écho un petit peu à vos valeurs, vos convictions, votre regard sur l'actualité. Alors, c'est confortable au quotidien de lire un journal ou de regarder un média qui confirme un petit peu ses idées, ses valeurs sur le monde dans lequel on vit. Mais c'est aussi un peu dangereux parce que vous vous enfermez dans une bulle. Vous avez plaisir à lire Le Figaro ? Achetez l'Humar, achetez Libération de temps en temps. À l'inverse, si vous êtes un abonné de Libé, ben, allez, Le Figaro, ça va vous gratter un petit peu. Mais c'est intéressant. Et pareil pour les grands JT d'information, vous appréciez peut-être France Info, mais pour voir la différence, n'hésitez pas à aller voir la concurrence aussi. Voilà. Alors, ça demande un petit peu de temps. Et ça demande, et j'aimerais bien avoir votre avis aussi là-dessus, tous les deux, même si on sort un petit peu de la vérification de l'info, je crois que ça demande aussi un effort. Je crois qu'être un citoyen informé, voilà, donc informé et éclairé sur le pays dans lequel il vit, sur les problèmes, les défis qui s'y posent et le monde dans lequel on vit, pour être en mesure justement de faire dans de bonnes conditions, ce qui pour moi est un devoir de citoyen, ce qui est de participer à la vie démocratique, même si le spectacle n'est pas toujours fascinant, de la vie politique en France, et de voter, de ne pas laisser les autres imposer leur choix à votre place. Pour ça, il faut faire un travail. Il faut s'informer. Je ne sais plus qui a dit récemment qu'une personne qui disait que pour elle, se informer, c'était un devoir. Alors, c'est un peu professoral comme dire « vous êtes obligé de vous informer ». Alors, ce n'est pas très agréable à entendre. Je crois que pour être un citoyen éclairé, il faut être informé. Sinon, vous êtes perdu, puis vous allez dire, comme je le lis parfois dans le chat, « Ah, mais c'est compliqué, ça, je comprends rien. » Oui, ça demande un effort, en fait. Voilà. Et ça demande un effort, notamment, de prendre du temps pour lire, pour s'informer, pour regarder un doc de qualité, et puis de s'intéresser à la qualité de la source. Voilà. Qui nous parle, voilà. Est-ce que je peux lui faire confiance, voilà. Donc ça demande un petit effort. Dans nos vies, c'est pas forcément évident à trouver, mais je sais pas ce que vous en pensez, ça.
Sinon, mais il y a aussi un truc dont on parle souvent, Julien, c'est le côté faux aussi. On a tous des biais, en gros. On pense tous, mais que ce soit en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen, on a tous des opinions politiques, des opinions personnelles sur tel ou tel sujet. Et faut sans cesse faire attention à ça et bien pas toujours aller dans le sens dont je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais toujours ne pas aller dans le sens où vont nos biais, quoi, en gros. Pour justement toujours se remettre en question, voir des avis différents et justement ne pas s'enfermer dans des bulles. On parle depuis le début de bulles, justement ne pas s'enfermer là-dedans.
C'est une question vraiment, c'est marrant que tu l'abordes parce que je pense que c'est parce que vous avez compris que je travaille avec Luc, hein, tous les jours. Et c'est vrai que
je suis au milieu.
Moi, je suis le rédacteur en chef et régulièrement, j'ai ce discours, c'est-à-dire, quel que soit ce que vous pensez, vous avez vos valeurs et c'est normal. En tant que journaliste, on a tous nos valeurs. On ne va pas dire le contraire. On lit plutôt certains journaux que d'autres. On a des valeurs, des convictions, voire des convictions politiques, plus pour certains que d'autres. Mais ça, quand on fait un travail de journaliste, on ne peut pas le faire disparaître. Ça sera toujours dans votre tête. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est si vous êtes, par exemple, très concrètement sur un sujet sur l'immigration et vous avez des chiffres à examiner, eh ben, les chiffres qui vous déplaisent, gardez-les. Donc si vous êtes quelqu'un qui est vraiment farouchement opposé à l'immigration et qu'on vous dit que, je ne sais pas moi, l'immigration est plutôt une immigration éduquée en France, par exemple, regardez si les chiffres sont vrais ou faux et tirez-en une conclusion. Si au contraire, vous êtes quelqu'un qui est plutôt quelqu'un qui n'a pas peur de l'immigration, qui est plutôt avec des qualités humanistes, etc. Si quelqu'un vous dit que, par exemple, oui, dans le 93, il y a majoritairement des gens issus de l'immigration, n'allez pas dire c'est faux par principe ou ne pas vous saisir du sujet. Je pense qu'il faut qu'on fasse tous ce travail, malgré ses biais, malgré ses valeurs. Nous, on est là pour simplement, Luc l'a dit, dire ce qui est vrai ou faux après enquête. C'est tout. Et après, à chacun et à vous de vous faire votre opinion. Voilà, j'espère que j'essaie d'être le plus honnête possible dans la description qu'on a de notre travail. Alors et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'en parler dans les commentaires.
Mais vous avez raison.
Même Crazy Bisounours.
Mais vous avez raison. Le matin, je vous fais une revue de presse. Évidemment, je ne vous lis pas tous les articles d'un journal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai fait un choix. C'est-à-dire que j'ai fait un choix dans les articles, et consciemment ou inconsciemment, j'ai fait le choix d'articles qui peut-être épousent un petit peu mes convictions de citoyen sur le monde dans lequel on vit. Ça n'est que le regard de Samuel Etienne. D'ailleurs, je vous mets en garde. Souvent, je vous dis, alors je vous explique là, d'abord la différence entre un édito et un article. Je vous dis, voilà, ça, c'est un édito, c'est un journaliste, c'est un journal qui vous donne son avis. On n'est pas sur les faits, on est sur une interprétation. Et moi, le matin, même si je ne suis pas full-time édito, de temps en temps, je vous dis, attention, ça n'est que mon avis, ça n'est que mon avis, ça ne vaut que ça. Eh bien, même au-delà même du moment où je vous dis c'est mon avis, dans le choix même des articles que je fais, consciemment ou inconsciemment, je l'espère plutôt inconsciemment, eh bien, il y a des biais, il y a des choix. Donc, même ça, vous devez le remettre en question et chercher à vous informer par vous-même. Voilà. Parce qu'on est tous...
Il y a des questions très concrètes, ouais. Et du coup, j'aime bien répondre à des questions auxquelles je n'ai pas l'habitude. Il dit, si un journaliste avait des idées à gauche politiquement, ouais, ça serait difficile de travailler dans un journal qui est globalement très à droite. Alors, je sais par exemple que Le Figaro, qui est un journal de droite,
oui,
il y a beaucoup de journalistes qui sont plutôt des gens de gauche qui travaillent dans ce journal-là, parce que dans les pages internationales, par exemple, où vous êtes censé de couvrir l'actualité internationale, on ne vous demande pas d'être quelqu'un de droite. Alors évidemment, si vous travaillez sur peut-être vous occupez des tribunes sur l'économie, ça va être plus compliqué si vous êtes quelqu'un de fondamentalement à gauche. Mais il ne faut pas croire en fait que les journalistes, on est complètement centré sur nos convictions politiques quand on travaille. Il y a des gens que je connais qui travaillent dans des journaux de droite qui sont de gauche et inversement, parce que ça dépend de votre travail. Si vous êtes éditorialiste, et ça je pense que Samuel vous en parle tout le temps et je sais qu'il en parle à chaque fois qu'on est ensemble, c'est très important, c'est que les éditorialistes, c'est leur boulot de donner leur avis. Moi, Luc, c'est pas notre boulot. C'est pour ça que quand je viens le vendredi, il me disait quand est-ce que tu reviens le vendredi ? C'est une discussion que j'ai eue avec Samuel, c'est que moi c'est quelque part contre nature de venir donner mon avis, ouais, sur plein de choses. Ouais. Moi je donne très peu mon avis. Mais c'est intéressant, ça m'intéresse, ça me stimule quand je viens et de répondre à vos questions, mais normalement moi c'est pas ce que je suis censé faire.
Thomas Soto était vendredi ici, dans la pièce à côté, pour l'Hebdo Étienne, son premier stream. Et puis à un moment, on parlait de la réforme des retraites, hein, puisque là, on approche de, notamment de la décision du Conseil constitutionnel, il y a les journées de mobilisation qui se poursuivent. À un moment, on a dit à Thomas de demander un petit peu son sentiment sur cette réforme des retraites. Et il nous a dit « je ne peux pas vous dire ». Il dit « je ne peux pas vous dire, parce que je reçois quasiment au quotidien, dans Télématin, des responsables politiques. Je leur fais parler de la réforme des retraites et je n'ai pas envie qu'ils connaissent mon point de vue de citoyen là-dessus ». Alors ça m'embête sur le moment parce que du coup il ne prend pas position, mais je comprends. Je comprends bien sûr la démarche, quoi. Mais je te réinviterai, Julien, quand même.
Ça serait jouable, je sais pas, je sais que la dernière fois tu m'avais fait un sondage, j'avais trouvé ça hyper intéressant.
Ouais.
Est-ce que je peux me servir un peu de vous, désolé, pour faire un sondage qui moi m'intéresse? C'est à votre avis, dans les thématiques de désinformation, pour vous c'est quoi les vrais dangers, les gros dangers? Donc en gros les thématiques, tu m'aides à remplir la liste, hein, Luc, mais qu'est-ce qui est le principal danger? C'est par exemple de la désinformation en ce moment sur la santé. Je laisse.
Ouais, parce que le clavier est très loin.
Le clavier est loin, il est obligé de sauter comme ça pour arriver à.
Parce que c'est très artisanal, hein.
Voilà.
Alors, principal danger de désinformation.
Voilà.
Voilà. Deux points.
Ah, il n'y aura pas le N du coup,
si
parce que
bon.
Si c'est bon.
Donc, la santé.
La santé.
Tu veux dire les domaines, c'est ça donc
bah, par exemple, la santé, la politique.
Le climat.
C'est-à-dire. Ouais. Le fait que politiquement, on peut se retrouver avec un candidat qui a surfé sur la désinformation, est-ce que ça peut donner ?
Le climat ?
Le climat.
Le climat. Ouais, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ?
Le problème, c'est que je pense que certains vont vouloir répondre plusieurs, ils vont pouvoir.
Ah, on peut pas. Bah, en fait, si on est vraiment sur le truc où on se dit, voilà. dans les années à venir, ça va avoir des conséquences qui sont importantes, et c'est vraiment ça qui m'inquiète, moi.
Ouais. Est-ce que tu veux rajouter santé ? Politique.
Il y en a qui mettent l'énergie, qui parlent, qui parlent du, ouais. du
c'est lié au climat.
C'est un peu lié au climat.
Le nucléaire et tout ça, c'est des thématiques qu'on fait beaucoup.
Il y en a qui mettent la guerre. Est-ce que la guerre, du coup, on le rapproche du politique ou est-ce qu'on dit que c'est.
Non, c'est vrai, la guerre. Au sens où, est-ce que la désinformation, ça peut être générateur de guerre? Et c'est quand on voit ce qui se passe avec l'Ukraine.
Mais les conflits.
Les conflits, voilà.
Il y a Taïwan en ce moment, là, où c'est très tendu en ce moment.
Il y a beaucoup qui parlent de l'IA aussi. Est-ce que l'IA, du coup, c'est quelque chose
L'IA,
qui est...
L'IA, ouais.
Ah, j'ajoute l'IA.
Alors, c'est différent, c'est pas une thématique, c'est un outil.
Oui, mais c'est un outil.
Allez, on y va.
Bon, alors, c'est pas. Comme tout sondage est. Comme tout journaliste, il n'est pas parfait. Principal danger des informations, selon vous, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? En matière de santé, en matière de politique, hein, l'exemple de Trump qui, Luc nous l'expliquait, a pu surfer justement sur des thématiques un peu de désinformation pour arriver au pouvoir et peut-être pour revenir au pouvoir, il va essayer la prochaine. Le climat, les conflits, Ukraine, Taïwan par exemple, ou les dangers de la puissance de l'IA. C'est parti, vous avez deux minutes.
C'est dur hein, comme sondage.
Ouais, mais c'est pas inintéressant. Peut-être un truc qui va sortir quand même, tu vois. Ouais, ouais. Ou pas d'ailleurs. Voilà. Bah, vous avez deux minutes tranquillement et moi je remonte un petit peu dans le chat.
Pêchez-vous, je me lève à 4h du matin. Je pense que Samuel aussi, donc du coup vous êtes ensemble. Tu te lèves à quelle heure?
Là, je me lève à 2 là.
À 2h du matin
2h, pour arriver à 3 à la rédac.
Donc tu vas dormir 1h30 en fait, on est d'accord?
Ouais, non, si je m'endors à minuit, je vais dormir 2h. Si j'arrive à dormir 23h, ouais, 23h.
Désolé, mais t'arrives à poser ta tête sur l'oreiller quand t'as fait un stream pendant 3h et à dormir
non,
direct?
Non, faut que ça retombe un peu. Alors j'ai fait attention, j'ai pas pris du café trop tard. Je prends un peu de truc pour le jet lag là.
La mélatonine,
ça m'aide à m'endormir plus vite.
L'adrénochromie.
Et puis je fais appel à des petites techniques mentales en fait, issues de la. Sophrologie, en fait, je fais appel à certaines images très apaisantes. C'est un truc que j'ai appris en sophrologie il y a très très longtemps, quand j'étais un lycéen, un étudiant stressé. La sophrologie, c'est l'exercice de respiration, c'est un espèce de yoga occidentalisé pour s'apaiser, pour chasser un peu le stress. Donc il y a les travails de respiration et tu fais appel à des images très apaisantes. Et moi, j'ai 2-3 images comme ça. Alors je pense à mes enfants, par exemple, des images très précises de mes enfants. Et ça a la capacité, en quelques minutes, à me faire partir, en fait.
C'est trop bien.
Ça chasse toutes les. Je me sers beaucoup de ça le soir. Et donc, entre le moment où je mets au lit, par exemple, le moment où je peux tomber dans le sommeil, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure max. C'est très rapide. Je fais appel à tout ça, quoi. Ou alors, je regarde une série un peu débile sur Netflix. Ça marche bien aussi. On a les résultats en direct. J'aurais pu cliquer plus tôt puisque on n'est pas obligé d'attendre la fin.
La politique.
Ah, ben, vous voyez. Je vous montre le résultat.
C'est très politique comme communauté, en fait.
C'est très intéressant. Vous voyez, il y a quelque chose qui sort quand même, qui s'impose, comme quoi ce sondage était intéressant. Pour vous, le principal danger de la désinformation, ce sont les conséquences politiques, en fait.
Mais ça veut dire que concrètement, vous imaginez que dans les prochaines années, on puisse avoir un politicien comme Trump ou autre, au pire, qui prenne le pouvoir grâce à ça. C'est ça un peu concrètement votre peur.
Alors moi, vous allez me trouver naïf, mais je trouve que dans... Parce que je disais tout à l'heure, en France, on pense toujours qu'on est à l'abri. Moi, j'ai l'impression que la conscience démocratique qui citoyenne dans un pays comme le nôtre nous protège un peu, mais peut-être que je suis totalement naïf ou trop optimiste, quoi.
Il y en a qui disent parce que la politique influence tout, quoi.
Tout.
Et c'est vrai que, oui...
Tu vois, les gens sont divisés là-dessus. Certains estiment comme moi que les gens ne se laissent pas influencer si facilement dans notre pays. D'autres, pas du tout, citent des noms de certains politiques, estiment même qu'on est déjà dedans, en fait.
Ouais, mais je...
Tu vois, un président populiste est ma plus grande peur, écrit Karim, parce que le politique influence tout, c'est ce que vous disiez à l'instant, quoi. Alors sur Trump, c'est vrai que sur Trump, à chaque fois que on parle de Trump, alors c'est vrai que bon, moi c'est un personnage que je trouve assez intéressant quand même. Certains disent ouais, mais Trump, regardez ce qu'il a fait pour l'économie, regardez ce qu'il a fait, il a réussi à sortir de certains conflits et tout. Ce qui peut être reproché à Trump, c'est d'ailleurs on peut parler de sa politique bien sûr, mais c'est les méthodes. C'est ce que Julien disait tout à l'heure, ce que vous disiez tous les deux, le fait d'avoir un rapport assez particulier quand même à la vérité. C'est quand même quelqu'un qui a refusé de reconnaître la victoire de son opposant Biden à la présidentielle. C'est quand même quelqu'un qui à un moment a affirmé que c'était une fake news, que c'était un complot, que l'élection était truquée, ce qui n'est pas un fait, hein. Personne n'a réussi à prouver à part lui-même, et qui a quand même encouragé ses partisans en les laissant faire à marcher sur le Capitole, symbole de la démocratie américaine. Donc ne vous trompez pas de combat. Quand je peux avoir des mots un peu critiques sur le personnage, c'est pas tellement sur les aspects de sa politique, hein, mais c'est plutôt sur les méthodes qui sont pour le coup des méthodes extrêmement dangereuses pour la démocratie.
Il y a encore une petite question. Moi, je suis le mec qui aime bien les questions précises, tu sais.
Yes, yes, yes.
Mais il y a une question au-dessus qui était bien, c'est sur, en gros, quelqu'un qui disait, donc c'est Vinirom 37, qui disait, peu de questions. À l'ère numérique, où tous les fichiers, vidéos et photos ont un exif et une géolocalisation, pourquoi à ce jour, les images n'ont pas l'obligation d'afficher cet exif, info essentielle, dans tous les documentaires? En gros, ça veut dire qu'effectivement, une photo... Quand vous faites un clic droit sur la photo sur un PC, vous pouvez normalement avoir toutes les données, à quelle heure elle a été prise, avec quel type d'appareil, etc. Nous, les fact-checkers, on se sert souvent de ça. Et on pourrait imaginer qu'on impose ça, ce qui ferait qu'on n'aurait plus cette
génial.
Parce que c'est vrai que mettre l'IA à 6%, moi, je pense que l'IA, ça va nous... On peut en avoir un peu peur dans le domaine de l'information. Et effectivement, sachez qu'il y a des projets. Je sais qu'il y a des projets, notamment de grosses boîtes américaines, qui proposent en fait que toutes les images, on les force à garder des informations pour être sûr qu'elles sont vraies ou pas.
C'est pas mal, ça.
Mais le problème, c'est que sur Internet, vous voyez bien comment ça se passe, ça tuerait une partie de la créativité. C'est-à-dire qu'on adore les mèmes, on adore les conneries sur Internet, les photos trafiquées, et bah, ça serait aussi dire, bon, les gars, il faut être que sérieux. Et donc, c'est pas simple comme question, mais c'est une bonne idée.
Ouais, en même temps, on peut se régaler comme d'une image trafiquée et rigolote. Si d'un clic droit ou même discrètement affiché, on nous dit que c'est une image transformée.
Ouais,
c'est pas mal,
vrai,
ça.
C'est vrai.
Ah, bah, bonne question, merci. La réponse est hyper intéressante. J'avais jamais pensé. Je savais pas qu'il y avait ce genre d'outil. Allez, on va se donner une limite. On va se dire 23h, ce qui fera un petit stream de 3h, ce qui est cool en vrai.
C'est ta moyenne, quoi.
Voilà, ouais, on est bien.
Tranquille.
En vous rappelant que le documentaire Désinformation, la contagion, qu'on a vu de façon un peu hachée, là bien sûr, vous pouvez le voir de façon beaucoup plus confortable chez vous, c'est sur le site de franceinfo.fr, c'est sur YouTube également. Vous tapez Désinformation, la contagion. Ouais.
Toujours le même.
Oui, non, mais ce qui est marrant, c'est que Crazy Vision aussi dit des choses qui sont aussi parfois intéressantes. Moi, je pense qu'on peut être d'accord sur des trucs aussi.
Mais évidemment.
Ouais. Mais moi, je trouve très, très bien que Crazy Vision Ours, on s'est opposé à certains de ses commentaires tout à l'heure parce qu'il est un petit peu offensif. Moi, je trouve très bien que, un, tu sois là. Deux, que tu viennes discuter avec nous. Parce que tu pourrais rester dans ta bulle à toi. Voilà, et pas venir discuter avec nous. Et tu viens discuter avec nous. Et moi, je vois certains de tes messages. Je pourrais être d'accord avec toi. Voilà, moi je trouve que déjà qu'il puisse y avoir cet échange, c'est déjà très très bien, donc moi ça me bat tout à fait. Moi j'adore le matin, toi tu disais, moi ça m'a intéressé ce qu'on t'a dit tout à l'heure, par exemple sur la question de l'immigration, si vous êtes quelqu'un qui trouvait qu'il n'y a pas de problème sur l'immigration en France, eh bien laissez-vous bousculer par un reportage, un article, des chiffres qui ne vont pas dans le sens de vos convictions. Allez-y, allez-vous vous frotter à cette info pour voir un petit peu pour réfléchir un petit peu. Moi, je trouve ça super. Mmh. Et le matin, j'adore être bousculé, alors, ou par un article, mais par vous aussi, quand vous m'interpellez en me disant « Mais Sam, t'as rien compris, c'est pas ça du tout, je vais t'expliquer. » J'adore ça. Parce que le plus grand danger, c'est qu'à un moment, on se retrouve tous dans nos bulles informatives, voilà, complotistes ou pas, médias mainstream ou pas, et qu'on finisse par penser que les autres, c'est des gros connards, voilà, qui réfléchissent pas assez, et que la vérité, c'est nous qui l'avons. Si on continue à créer des passerelles entre toutes ces communautés et ces bulles, et qu'on arrive à continuer à échanger, là, c'est cool, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Pourquoi t'invites pas des contradicteurs, Samuel, me dit Nan? Parce que vous êtes là. Là, vous êtes 4000. Potentiellement, je sais pas combien, il y a des gens qui sont absolument pas d'accord avec tout ce qu'on vient de dire, mais vous êtes là. Vous n'êtes pas interdit de débat. Donc, ici, c'était l'idée, le projet ce soir, c'était de regarder un documentaire qu'a réalisé Luc. Donc, je pensais que c'était bien d'avoir Luc. Et avec Julien, qui est le rédacteur en chef de Vrai ou Fake, du service Vrai ou Fake de France Info, quoi. Donc, des contradicteurs. De tout ce qu'on allait pouvoir évoquer ce soir, ben on a vu quelques-uns dans le documentaire d'ailleurs, je pense qu'on pourrait les inviter, mais c'était pas un débat que je voulais faire. C'est pas un débat avec les gens qu'on a parfois d'ailleurs vu dans le documentaire. C'était vous montrer le documentaire et parler avec vous. Si on avait reçu ici un contradicteur, on va dire 100% opposé avec tous les propos qu'on a tenus, il y aurait eu zéro débat avec vous, il y aurait eu un débat avec cette personne. De toute façon, j'en vois pas l'intérêt en fait. Je préfère vous donner la parole à vous et de lire Crazy Bisounours et les autres en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Oubliez-le. Oublions.
C'est ce que je veux dire. Parce que,
une question qui est intéressante. Pourquoi Luc et Julien ne fact-checkent pas en direct les politiciens lors des émissions? Alors ça, c'est vrai que le fact-checking en direct, c'est quelque chose qui est parfois tenté par certaines chaînes. Il faut savoir que c'est extrêmement compliqué. Mmh. Puisque le fact-checking, c'est pas non plus... Il n'y a pas un bouton fact-checking, quoi. En gros, on va pas sortir, on n'a pas la réponse tout de suite.
Faut bosser, en fait.
Voilà, faut bosser et tout. Et justement, le concept du fact-checking, c'est de ne pas répondre à chaud. C'est de prendre le temps de digérer une info, de travailler dessus, de la vérifier et d'ensuite en sortir quelque chose dont on est sûr du résultat. Donc, le fact-checking au direct, c'est très dangereux. Enfin, c'est très dangereux. C'est très... c'est pas évident, quoi. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Et c'est, bon, nous, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Mais c'est dans l'idéal, c'est vrai qu'on...
Mais on peut progresser là-dessus, je pense, parce que...
On peut progresser,
c'est ça. Il y a un truc qui est clair, c'est que les fausses informations que sortent des politiques, ils les répètent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme si on les découvrait sur les plateaux. Je pense qu'un travail que doit faire le journaliste, on doit le faire mieux. C'est en fait, avant de faire son interview politique, il y en a qui le font très bien... Ils lisent tout ce qu'ont dit les gens avant. Ils savent très bien que c'est des éléments de langage qui vont leur ressortir. Et toi, quand le mec arrive, tu as déjà tes fiches avec tes réponses. Donc, tu le laisses pas quelque part cracher sa valda. Et puis après, il a sorti une fausse info, tu le découvres trop tard et hop, hop, hop. Non, tu sais déjà qu'il va sortir cet élément de langage qui est faux et tu peux le contrecarrer.
Ouais, c'est ce que dit Fake Investigation. Yeah. Le fact-checking en direct, c'est possible avec des éléments déjà vérifiés.
Il y a Thierry Moreau qui écrit... Et j'allais le dire, Thierry, donc tu m'ôtes les mots de la bouche. Il y a aussi, malgré tout, parfois un manque de travail des intervieweurs pour être capable de réfuter le discours d'un politique. Pardon, mais un intervieweur politique, dont c'est le métier qui ne fait ça qu'à longueur de journée, qui est branché tous les jours avec toute l'actualité politique et les propos sur tel ou tel sujet des principaux responsables politiques de notre pays, il doit être en capacité, en direct, c'est sa spécialité, de corriger, de contextualiser une affirmation donnée par le politique. S'il a bossé son interview, s'il sait par exemple que le message a déjà été tenu par l'homme ou la femme politique en question sur un plateau, avec un travail correct, rigoureux, de préparation de l'interview, il doit avoir identifié ses thèmes, il ne doit pas les laisser passer comme ça. Thierry, tu as complètement raison.
Et je vois des messages aussi, l'IA, pour fact-checker. Le fact-checking aussi, c'est souvent un travail de nuance, quoi. Souvent, ce n'est pas totalement vrai, ce n'est pas totalement faux. Souvent, on est entre les deux. Et je sais pas si une IA serait capable de faire ça. Puis il faut qu'on garde notre boulot quand même.
Tu vois, il y a Marie Brittany qui dit le fact-checking en direct.
Mais ça, pourquoi pas à l'avenir, ça pourrait peut-être être une aide.
Je pense que ça peut le devenir.
Ouais,
carrément.
Moi, ce que j'ai retenu notamment ce soir, j'ai appris plein de choses, c'est que notamment les outils qui nous inquiètent le plus, donc les réseaux sociaux comme caisse de résonance, notamment de fausses infos, de théories complotistes qui existent depuis la nuit des temps, nous rappelait Julien au début de ce stream, eh bien ces mêmes outils, ces mêmes réseaux sociaux et demain l'IA vont peut-être être des outils aussi pour arriver à une information de meilleure qualité aussi. Ouais. Il faut bien les utiliser.
Ne fact-checkez pas avec ChatGPT, on fact-check pas avec
par pitié
ChatGPT.
Bon, en tout cas,
j'ai comme beaucoup de gens, j'ai demandé à ChatGPT de faire mon CV et honnêtement, il faut qu'il bosse encore un peu. Après, je sais que l'IA est pas faite pour ça. Enfin, pour l'instant, on en est loin quand même de ChatGPT fact-checker. On n'y est pas encore.
Il y a OPG qui rit, c'est mignon. Tu écris, c'est très drôle de voir Julien essayer de lire absolument tous les messages. Sachez que c'est ce qu'on essaie de faire tous. Parce qu'en fait, c'est assez passionnant. Tout à l'heure, on m'a demandé, mais pourquoi tu n'as pas invité un contradicteur ? Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Twitter, quand on a annoncé il y a une semaine avec Julien le fait que vous veniez tous les deux ce soir pour regarder le documentaire des informations de la contagion ensemble, il y a donc un compte que je ne connais pas qui nous a proposé deux invités, qui se sont auto-invités à la maison. Alors ça, c'est la première fois que je voyais ça. C'est-à-dire, on s'auto-invite dans une émission. Enfin, moi, je n'ai jamais fait ça, personnellement. Je trouve ça assez intéressant comme concept. Alors ça m'a un peu dérangé parce que je trouve ça un peu étrange quand même comme idée. C'est comme si le vendredi il y a des gens qui disaient, des gens que je ne connais pas parce que je ne connais pas ces gens, qui disent bon bah moi le vendredi je viens dans ton émission parce que j'ai des choses à dire. Bah oui, bah, enfin on est combien en France d'adultes en âge de voter, je sais pas, 30 ou 40 millions, je sais pas combien on est. Donc vous voyez c'est juste pas possible, moi je ne connais pas ces gens, n'importe qui peut pas s'inviter chez moi. Et encore une fois, je préfère qu'on émette des idées et que la contradiction soit dans le chat et elle est là, voilà, plutôt que donner la parole à une seule personne. Hein, c'est comme si là, par exemple, si j'avais invité un contradicteur ce soir, c'est comme si j'avais une personne dans le chat et que j'aurais échangé avec elle toute la soirée. Donc, je ne trouve pas ça tellement intéressant. Je préfère vraiment ce qu'on vit ici, quoi. Voilà. 23h.
C'est l'heure. Tu vas pouvoir dormir 43 minutes, non, c'est parfait, vrai, tu seras en pleine forme demain.
Non, avec la qualité de ces questions, en vrai, on pourrait tenir comme ça jusqu'à facile, minuit, 1h, 2h du matin. Je voudrais soulager le jeune homme qui est en face de nous, tu m'as brûlé ton prénom.
Sacha.
Alors Sacha, il nous a fait vivre une péripétie que j'ai adorée ce soir. Puisque...
Viens, qu'on se voit.
Qu'on sache
la personne qui a appuyé sur le bouton.
Par contre, ne touche à rien, Sacha.
Qui a éteint le modem.
Par contre, ne touche à rien, Sacha. Parce qu'en fait, c'est très drôle. C'est au bout d'une heure de stream, je crois, tout à l'heure. Voilà. C'était très, très drôle. Et en fait, donc ici, c'est en cours d'installation. C'est le petit studio de stream dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à un moment, donc Sacha, qui était avec nous ici pour couper des extraits pour les réseaux sociaux, Sacha, à un moment, s'est levé pour aller dans la pièce principale de stream, qui est plongée dans le noir parce que Papy Sam n'a pas mis de lumière. Il n'a pas acheté de lampe. Ça vend pas.
Je confirme.
Il y a juste les lumières des Projo.
Il y a un vague chauffage quelque part, on l'a pas trouvé, mais il y a rien d'autre.
Hein. Donc c'est très très, c'est un peu camping. Il y a pas de lumière, sauf qu'il y a des interrupteurs, bien sûr. Alors Sacha rentre dans une pièce noire, qu'est-ce qu'il fait ? Bah il appuie sur l'interrupteur. Sauf que ce que ne savait pas Sacha et pas moi non plus, c'est que l'interrupteur était relié à la prise électrique où est branchée la box.
C'est le petit frère de Jean Messier.
C'est la box, c'était la box. Et donc. Comme on n'apprend pas, c'est quoi l'expression, un vieux singe peut faire des grimaces. Je vois quand même que le crash du stream correspond à peu près au moment où Sacha s'est déplacé. Je lui dis Sacha, t'as pas appuyé sur un truc quand même à un moment.
Le pauvre Sacha, il était quand même dans le noir tout seul, sans chauffage, et il s'est fait engueuler genre mais là Sacha, tu pouvais pas ne pas appuyer sur le truc.
Et mais je lui dis merci. C'est ma faute. Mais non, mais je lui dis merci parce que je savais pas du tout que cet interrupteur était connecté à la prise électrique où j'avais mis la box. Le génie, Samuel Etienne. Ça veut dire que eh bien plus aucun stream ne crachera pour cette raison.
Grâce à Sacha.
Ben voilà. Tu as sauvé un nombre incalculable de streams à venir ce soir.
Voilà. Merci.
Et puis donc du coup vous étiez un peu surpris mais vous êtes revenu après massivement. Merci d'avoir été aussi nombreux ce lundi soir pour partager cet échange avec toi. Merci Sacha. Voilà.
Eh ben, écoutez,
c'est pour ça.
Je vous en prie.
qui n'est pas russe hein, parce que j'ai eu la question passée. Il n'est pas russe.
Mais par contre moi j'ai vu des questions passer. Vous n'avez pas abordé le truc.
Sur quoi
c'est, du coup il y a des gens qui disaient pourquoi est-ce que vous ne prenez pas des gens qui ont un avis opposé.
Je pense
qu'il y a beaucoup de gens qui confondent genre avis et fait.
Non, et puis surtout dans le chat, les avis opposés ou les analyses différentes, on les a ici. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Quoi. Est-ce qu'il est fan de Pokémon, Sacha ? J'ai la ref.
Sacha, Pokémon ?
Est-ce que tu peux me passer le petit Mac qui est derrière toi, qui va nous servir à faire le raid, les amis ? Donc, bon, c'est un des instruments sympas de Twitch. Voilà. Je vous propose maintenant, sans faire de pause, voilà, bien à l'arrache, comme on aime, de faire un raid vers un créateur de contenu, un streamer, une streameuse qui est en live actuellement, mais qui n'a pas encore beaucoup de viewers, voilà, pour lui donner un petit coup de pouce. Voilà, parce que c'est quand même difficile de percer sur Twitch, il y a tellement de contenu sympa. Donc là, je vois des propals. Ah, c'est pas mal ça.
Il y a Defecator qui est en train de faire. En plus, c'est dans la thématique.
Ah ouais, bon, on va rester peut-être sur cette thématique. Écoutez, ça va être très rapide. Ouais, c'est bon, c'est choisi. Il y a Defecator, vous savez que ça, qu'il y a un garçon qui fait un super travail de lutte contre la désinformation sur YouTube, sur Twitch. Et c'est une très très bonne idée.
Moi, je serais
comme
content
ça,
qu'on aille chez lui. Ouais.
On reste sur cette thématique. Hop, Defecator. Il est où le F?
C'est avec un A, je crois. C'est un A.
Je crois que c'est ça, ouais.
C'est un A.
Parce que, hop, voilà. Et le voilà, voilà. 430 viewers sur la chaîne de Defecator officiel. Allez voir. C'est dans la forme surprenant et sur le fond extrêmement intéressant. Je lance le raid. Je vous souhaite une super soirée. Merci d'avoir été avec nous. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous et continuez à discuter, y compris avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et j'ai beaucoup aimé, Julien, ce que tu disais, le conseil que tu donnes dans les familles, quand les familles sont un peu divisées, déchirées sur ces sujets. Eh bien, parfois, il faut passer outre et puis dire à la personne, bon, on n'est pas d'accord sur les trucs, mais tu es toujours dans la famille et on a toujours plaisir à t'avoir à table. Moi, je trouve ça super important.
Un peu de tendresse, ça aide aussi, autant que la rationalité, parfois. Ouais.
Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à tous les trois. Sacha, merci d'avoir débunké l'histoire de la...
Et d'avoir appuyé sur le
sur l'interrupteur. Ça n'arrivera plus. Super. Je vous retrouve demain matin sur France Info. Demain matin sur Twitch vers 9h30. Et puis ça ira bien. Après, je vous tiens au courant.
Il va dormir.
Vendredi soir, l'hebdo Étienne. Samedi soir, une surprise, un stream à 20h avec une personnalité. Je vous dis rien. C'est une grosse surprise. J'en dis pas plus. Voilà. Samedi soir, 20h. Vendredi, 20h. Réservez vos soirées. Je charge le raid. Ah, il est en train de charger. Pardon, 5 secondes. Et puis, ça va, là, 23h. Ouais, ça vient, je vais retrouver la petite équipe de la matinale demain, ça va être très bien. Le raid, pardon, 10 secondes.
J'adore la tête des gens quand ils...
Non, ça n'est pas Pierre Palman, mon invité de samedi. Non. Mais ça va être très sympa. Ça va être quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de curiosité. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Faites coucou à l'ami Defecator. À très vite.
On peut voir après, hein.
Bien sûr.